Christophe, vous dites quoi ?
Non, là, on parlait de foot avec Thierry.
Mais vous parliez hors antenne, c'est le concept du hors antenne, c'est le off par rapport à...
Voilà, c'est le off.
Mais Christophe, j'ai l'impression que vous avez les dents longues cette année, vous avez envie d'en découdre avec la vie.
Ben oui, j'ai décidé d'être carriériste.
C'est-à-dire ?
Je veux faire carrière.
Ah oui, donc ça va passer par des compromissions, des rires à des choses qui vous font pas rire, des trucs un peu lèche-cul, une pomme pour la maîtresse, un bouquet de fleurs pour le député ?
Ouais, mais je voudrais surtout connaître des politiques.
Ah d'accord, et vous pensez d'abord faire sauter des PV et ensuite obtenir des postes ?
Par exemple.
Mais carrière dans quoi ?
Je sais pas, carrière.
D'accord, mais vous avez une spécialité, vous savez ?
Non, il n'y a pas de spécialité, je veux juste faire carrière.
Vous n'avez pas de talent particulier ?
Je n'ai aucun talent.
Ah bah alors je vois un bel avenir pour vous.
Merci.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Très, très près.
Plus près de toi.
Très, très, très près.
C'est le titre de l'émission.
Vous avez eu l'heure, non ?
Juste avant d'aller à l'école, c'est parfait.
7h-9h, plus près de toi.
7h-9h, Édouard Baird. Pouette, pouette, la hurlette, tagada la queue du rat.
Je vous jure, ça vaut le coup.
Bonjour à tous. Que vous soyez sur le chemin de l'école ou vers d'autres lieux, je vous souhaite une très bonne journée. Voici maintenant Thierry Paré, qui a un très gros capital sympathie. Thierry, vous le savez ?
C'est sympa.
Dans notre conscience, là, il y a du courrier. J'aime Thierry Paré.
Ah ouais,
Thierry Paré, ton âme. Thierry Paré, ton cul, ce qui est très différent.
Bizarre,
enfin, les gens s'intéressent à tous les morceaux de vous, comme une vache dont on prendrait un petit peu des morceaux, la loyau, la macreuse, l'araignée, le
comme
filet.
Je suis particulièrement généreux, je veux bien donner.
Très bien. Vous donnez tout, du filet jusqu'aux abats. Tout de suite, le journal de Thierry Paré.
À la une de l'actualité ce matin, notamment, hein, on va parler de Donald Trump dans un instant, mais l'épidémie de grippe, épidémie qui serait précoce, virulente, qui a d'ores et déjà atteint un nombre inhabituel de malades, qui engorge les services d'urgence, qui sont saturés. Marisol Touraine a prédit un bilan probablement lourd. Le pic de l'épidémie, c'est pas tout de suite, hein, il est attendu pour la semaine prochaine. Les personnes les plus touchées, on le sait, ce sont les seniors, les plus de 65 ans. Alors l'association des médecins urgentistes et le président du SAMU Urgence ne voient pas les choses tout à fait du même œil. Selon l'association des médecins urgentistes, certains décès sont dus tout simplement au dysfonctionnement du système de santé, conséquence d'une politique, je cite, gouvernementale inadaptée depuis 30 ans. Et selon le SAMU Urgence, certains hôpitaux sont tellement surchargés que les ambulanciers ne peuvent même plus décharger leurs patients. Une réunion est prévue ce matin à l'Élysée avec François Hollande. Conférence de presse pour le moins folklorique de Donald Trump hier. Le milliardaire républicain a donc tenu sa première conf de presse comme président élu. Il a laissé éclater sa colère, entre guillemets, devant un parterre de quelques 500 journalistes. Il s'en est pris à un journaliste de CNN qui souhaitait l'interroger sur la Russie. Selon CNN, on va le rappeler, le Kremlin disposerait d'informations compromettantes sur Donald Trump, notamment une sextape. Réaction de l'intéressé, c'est bidon, ce sont des fausses informations. Concernant le piratage du Parti démocrate lors de la présidentielle, Donald Trump a reconnu pour la première fois que la Russie était sans doute bien à l'origine de ce dernier, avant d'ajouter que tout le monde fait des cyberattaques. Et puis concernant le dossier de l'emploi, le nouveau président des États-Unis a déclaré très modestement qu'il sera le plus grand créateur de postes que Dieu ait jamais créé. Il y a un autre dossier aussi qui est assez chaud, c'est la construction d'un mur à la frontière américaine. Mexicaine, Donald Trump maintient son projet qu'il entend facturer au Mexique. Le président mexicain, lui, Enrique Peña Nieto, a assuré qu'il ne paiera pas pour ce mur, en ajoutant, dans le même temps, il est prudent, qu'il œuvrera à de bonnes relations avec le président élu des États-Unis. En déplacement à Nice hier, retour en France, à Nice hier, donc François Fillon a défendu la mise en place de quotas votés par le Parlement qui déterminerait chaque année combien d'étrangers la France peut accueillir. Il a également plaidé en faveur d'une réforme de Schengen, il l'avait déjà fait, et pour la suppression de l'aide médicale d'État. Et pendant ce temps, Yannick Jadot sort du bois avant le premier débat de la primaire de la gauche, c'est ce soir à la télévision. Le candidat d'Europe Écologie Les Verts a affirmé hier vouloir présenter, je cite, un programme écologiquement pur pour la présidentielle. Yannick Jadot promet une sortie progressive et définitive du nucléaire d'ici à 2035 et l'arrêt dès cette année. Des premiers réacteurs, Fessenheim en tête, il s'en est aussi pris à ceux qui, en France, font les yeux doux à Vladimir Poutine. Il pensait à Jean-Luc Mélenchon. Les 8 anciens salariés de Goodyear Amiens Nord échappent à la prison ferme, poursuivis pour avoir séquestré pendant plus de 30 heures 2 cadres de l'entreprise. C'était en 2014. 7 d'entre eux ont été condamnés à de la prison avec sursis par la cour d'appel d'Amiens. Devenu l'un des points les plus chauds de l'actualité de l'art contemporain à Paris, la Maison Rouge va fermer ses portes l'an prochain. Des taxis volants vont être testés sur la Seine à Paris dès le mois prochain. j'étais assez sceptique en lisant ça, mais c'est vrai apparemment, hein, dénommé Sea Bubble, cette embarcation électrique doit voler au-dessus de l'eau grâce à de fines ailes. Entre 5 et 10 taxis volants devraient entrer en service dès le mois de juin prochain, et chaque embarcation pourra accueillir 4 passagers. Impressionnante facilité, l'équipe de France de handball est entrée de la plus belle des manières dans ces championnats du monde, en battant le Brésil, en étriant même le Brésil, 31-16. Le prochain match des Bleus, ce sera vendredi, donc demain, et ce sera contre le Japon à 17h45. Il y a plusieurs rencontres aujourd'hui, je vous laisse aller voir sur Internet. Et puis les demi-finales de la Coupe de la Ligue de football opposeront Bordeaux au PSG et Monaco à Nancy. Hier soir, le PSG a battu Metz 2-0 et Bordeaux s'est imposé 3-2 face à Guingamp.
Merci. Dites-moi Thierry, vous ne m'avez pas fait rêver là ?
Même avec les taxis volants ?
Mais oui,
les taxis, c'est ce que je dois faire. Oui, mais je ne sais plus quoi faire.
On n'a pas compris.
J'adore
l'idée. Comment ça se passe, les taxis volants ?
Vous essayez de rassurer à la fin des infos. Catastrophe Trump, guerre là, monstruosité, fléau, épidémie, griffe, hôpitaux. Mais il y a les taxis volants à Paris. Tout va bien. Merci. J'essaie d'imaginer.
Je crois que c'est vrai, oui.
Mais voler, c'est-à-dire.
Voler, mon grand, voler, la main dans la poche. J'essaie d'imaginer Trump à poil avec des dames. J'ai pas envie d'aller. J'ai pas envie de dormir avec cette image-là.
La Russie le tient avec ça.
Ah, vous êtes un très bon analyste.
Mais elle le tient avec ça, évidemment.
J'ai pas bien sûr, c'est connu, mais j'en parlais. Puis je vais vous dire comment
il y a des gens qui font mettre dans l'équipe. Des spécialistes qui ont des détails de la cassette.
La météo de Tito qui est basée sur la vraie météo avec les vrais chiffres. Tito, elle est en quel accord la météo ce matin ? Hein ? Dites-moi.
Aujourd'hui.
En quel accord elle est ?
Ah, aujourd'hui, elle est en la majeure.
Et bien alors, ça te coûte quoi de me le dire ?
Donc, je veux dire, aujourd'hui. Il fera 7 à Brest,
2
à Metz, et 3 à Dijon, 5 à Bourges, et à Bayonne, il fera 11, mais il pleut partout,
youhou,
il pleut partout,
yeah,
il pleut partout, sauf Anime, Arles,
Ajaccio,
Bastia, Marseille, là il fait beau.
À tout de suite.
Plus près de toi.
7h, 9h,
Édouard Baird.
Oh mon Dieu, il me caresse l'oreille, ce con.
7h12, une nouvelle rubrique. Le tour de table des non-spécialistes. Ils ne s'y connaissent vraiment en rien. Ils ont ouvert le journal au dernier moment. Ils se sont mis sur Internet en loose day. Ils ont décidé de donner leur avis. On est obligé de l'écouter. Messieurs, dames, bonjour.
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 Voilà. Bonjour. Vous avez commencé à regarder quelle est l'humeur du matin. Armel, pour vous, qu'est-ce que vous avez pris dans la presse ce matin qui vous a plu ?
Les Français font preuve d'une bienveillance prudente à l'égard des nouvelles technologies. C'est dans les Échos.
Alors, comment ça se traduit dans l'effet bienveillance prudente ? On va vers la nouvelle technologie en même temps.
C'est dans le regard, je pense. Un œil bienveillant, un œil prudent.
D'accord, il y a un œil dans les nouvelles technologies et l'autre qui regarde si on nous regarde ou qui appelle les flics. C'est pas clair.
Non, c'est pas très clair.
D'approfondir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez relevé, Mémé ?
Moi, j'ai traversé Paris en taxi. J'ai vu des affiches de La Garçonnière et ça m'a donné envie parce que La Garçonnière, c'est un de mes films préférés. Les droits mondiaux ont été donnés en France. Et voilà, et ça va jouer dans 15 jours.
Il y a Shirley MacLaine, c'est un film de qui ?
De Billy Wilder, 1960, 5 Oscars. Et ce qui m'épate dans ce film-là, c'est que c'est écrit. D'abord, Billy Wilder voulait que quelqu'un qui prête sa femme. Et pour l'ascenseur, c'était pas bien. Donc il prête son appartement. Voilà.
Au début, c'était ça. C'est quelqu'un qui part l'acheter avec ses patrons. Dit si vous voulez coucher avec ma femme pour que j'ai l'avancement. Un peu comme Christophe.
Un peu comme Christophe Jean.
Le carriériste, bien sûr.
Le carriériste.
Et donc c'est adapté au théâtre et ça va être joué d'abord à Paris.
Et à Paris, non, mais ça sera joué qu'à Paris.
Comment ? Et dis donc, et les régions, tout le monde s'en fout. Il faut jouer, il faut se balader. C'est ça qui est amusant au théâtre.
Non, je veux dire, c'est jouer en France.
Vous avez une bonne voix de ciné-club.
Oui,
je vous imagine bien dans 40 ans avec comme ça un gilet, avec 8 ventres, comme ça, 5 mentons, en train de fumer la pipe d'un coin de la bouche et de parler de l'autre. Et alors à ce moment-là, dans La Garçonnière de Billy Wilder. C'est bien. Eugénie, qu'est-ce que vous avez, vous ?
Moi, je suis assez irritée par les nouveaux bouchons des bouteilles cristallines.
Oui, alors
c'est d'accord,
boire de l'eau cristalline, je ne sais pas si ça va nous rapporter quelque chose de
l'étiquette. Ils en parlent en tout cas, sur l'étiquette.
Ah oui, c'est des bouchons qui ne se dévissent pas.
Ils sont pénibles.
Non, c'est ouvrir jusqu'au clic et refermer d'un clic.
Très bien.
Ils n'ont même pas eu l'audace de changer la voyelle.
C'est pas agréable à la bouche.
Je comprends, les belles. Ta colère, elle est belle.
Voilà.
C'est beau,
gratte,
c'est important de savoir se plaindre. C'est une vraie qualité.
Ça fait des abcès à la bouche, c'est dégueulasse.
Il y a les faits divers dans Le Parisien. Alors le titre, c'est « Un visage pour la défigurée du Jura ». On est là le matin, on lit ça, on commence à rêver, c'est beau.
Ça fout la pêche.
Le panier à la baisse, le panier de la ménagère est à la baisse aussi dans le Parisien. Par exemple, je sais que vous prenez de la lessive liquide Le Chat, Christophe
Ménier. Oui, je peux en témoigner, c'est en baisse.
C'est en baisse. Ça, j'ai pas... C'est chez Leclerc Drive qu'on a trouvé à 5,95. Je dis ça parce qu'il y a des spécialistes. Vous savez que Benoît Poulvorde, le comédien, est un spécialiste des produits ménagers.
Ah bon ?
Voilà, maintenant que je dis ça, ça n'a... Je ne sais pas si vous disiez quelque chose au débat général. Christophe, si. Qu'est-ce que vous avez ce matin, vous ?
Oui, alors moi, je me suis intéressé à la sexualité des animaux.
Tiens donc.
Le saviez-vous, Edouard ?
cette petite voix de faux cul. Carriériste.
Je suis carriériste, alors. Non, la mouche drosophile. Je ne sais pas ce que ça veut dire, drosophile. Je ne me suis pas renseigné. Mais,
Vous ne connaissez pas un mot, dites-le avec encore plus d'assurance.
Faut taper dessus.
Voilà.
La mouche drosophile.
Vous chambignez très bien. On croit que le mot chambignez existe vraiment.
Alors que non. Donc, le mâle chez la mouche drosophile ne produit qu'un seul spermatozoïde à la fois, mais qui est 20 fois plus gros que lui. C'est-à-dire que c'est comme si nous, nos spermatozoïdes faisaient la taille d'un 3,5 tonnes à peu près. Vous imaginez ? Ensuite, c'était bien ça.
Mon Dieu.
L'acarien. Acarophénax, et c'est dur à dire et je ne sais pas non plus ce que ça veut dire. Donc les bébés acariens, eux, s'éclatent à l'intérieur du ventre de leur mère entre frères et sœurs, et après la mère éclate et libère en mourant des petits garçons qui ne survivront pas et des petites filles déjà enceintes.
Ça va pas mon vieux.
Et alors, le pire, c'est l'hippopotame. Il y a une étude allemande qui a compris que la sexualité de l'hippopotame était visible à l'intérieur de ses matières fécales.
Je sais pas, moi j'ai
envie de prendre un café là.
Moi j'ai envie de retirer cette parole que je vous ai donnée, mais j'ai l'impression qu'il est trop tard. C'est aussi parfois le direct est un drame, et puis la jeunesse un naufrage comme la vôtre, Christophe Méné. C'est le moment pour nous rattraper sur les animaux de lancer notre rubrique une femme chic, un chien choc, Françoise Sagan et son cheval.
Et comment s'appelle ce gentil cheval ?
Le cheval et l'âne, c'est une histoire un peu compliquée parce que, au moment du cheval, il s'ennuyait. Alors, on a acheté un âne pour lui tenir compagnie. Et puis, le cheval est mort. Alors, l'âne a pris un coup de neurasthénie. On a racheté un cheval pour tenir compagnie à l'âne. Et puis, l'âne est mort, de vieillesse, tout ça. Alors, il a fallu racheter un âne pour tenir compagnie au cheval. Je ne sais plus à quelle génération on en est, mais enfin, ça fait une longue succession chaque fois.
Le cheval parle ! Le cheval parle ! J'ai un cheval qui parle !
Je parle aux animaux, c'est une manière un peu de se parler à soi-même, à part quand ils sont malades ou qu'ils ont l'air malheureux, qu'ils ont des crises de mélancolie, ce qui leur arrive. Généralement, quand on parle à un animal, on dit « Eh bien, mon petit coco, mon bon vieux », c'est une manière de se parler à soi-même, un peu indirect, tu crois.
C'est gracieux d'entendre Françoise Sagan à 7h17.
Avec son âne et son cheval,
oui,
en alternance.
On a entendu, c'est ce qui vient.
Oui, mais ça m'a plu, moi.
Oui, mais on vient de l'entendre.
Oui, mais ça m'a plu.
En exclusivité mondiale, jamais passé à la radio, on vient de le recevoir, Alka Balbir et Philippe Catherine chantent. Mon mec. Menace du matin d'Alka Balbir. Bonjour messieurs, dames, bonjour Caroline Dussin, bonjour, Gérard Davé, bonjour Fabrice Lhomme.
Bonjour Edouard.
Vous en concluez qu'il y a trois invités autour de nous, tout ça avec aussi Thomas Baumgartner qui me regarde un petit peu comme un petit animal du matin, regarderait son petit pot de lait en espérant y avoir accès. Messieurs, vous êtes devenus des vedettes nationales, vous êtes devenus des légendes pour avoir écrit ce livre un président ne devrait pas dire ça. Qui, en plus d'être une sorte de brûlot de pamphlets politiques, a fait exploser ce qui restait de la Hollandie, est un ouvrage littéraire, puisque c'est un ouvrage merveilleusement écrit pour un livre politique.
Ben, c'est gentil, on est touché. On a passé beaucoup de temps à écrire ce bouquin. Et c'est vrai qu'on a essayé d'en faire un livre qui soit pas seulement une chronique, d'une chronique politique traditionnelle. Mais on a mis beaucoup de nous, on s'est investi énormément pour donner à voir ce qu'on ne voit jamais. On va pouvoir faire le lien avec ce qu'on va faire à Radio Nova, c'est-à-dire explorer un peu les dessous de la politique, finalement.
Parce que le dernier livre politique que j'avais lu, moi, c'était « Merci pour ce moment » de Valérie Trévillers. Et je trouvais qu'il fallait un autre usage pour ce livre que de le lire. Je trouvais qu'il fallait trouver d'autres solutions, parce que c'était un truc qui était écrit un peu avec d'autres parties de son corps qu'avec la main. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, messieurs, dames? Vous allez commencer à officier ici chaque vendredi à 18h30, donc c'est dès demain. Qu'est-ce que ça va être, cette émission « Éléments de langage », Caroline ou...
Eh ben, ça va être une émission pour nous permettre de traiter à Nova et avec Gérard et Fabrice la campagne présidentielle, parce qu'on sent que cette campagne elle va être très particulière, qu'elle est vachement importante. Donc on avait envie d'en parler et surtout de faire une interview un peu atypique, créer un espèce d'espace de liberté, une interview un peu différente des interviews traditionnelles avec des personnalités très différentes qui vont essayer d'imprimer leur marque. et voilà, créer des instants de vérité avec des invités tout au long de cette élection.
Alors Gérard et Fabrice, l'émission s'appelle Élément de langage. Est-ce que vous êtes aperçu qu'aujourd'hui la classe politique ne répond plus qu'avec des phrases toutes faites, des phrases qu'on leur donne à l'avance? Il faut ce qu'on appelle les fameux éléments de langage. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire sortir autre chose?
Alors c'est pas évident, hein, mais on promet d'essayer, on ne garantit pas la réussite, mais on promet d'essayer. C'est-à-dire que Fabrice et moi, on a pas mal hanté les plateaux de télévision à la sortie de ce brûlot, hein, de ce livre, et on s'est rendu compte que plusieurs fois on était confrontés à des députés, des hommes politiques, etc., qui débitaient des éléments de langage, de la langue de bois du meilleur effet, avec des petites fiches comme ça, cartonnées, avec « il faut dire ça, il faut dire ça, il faut dire ça ». Et c'est vraiment exactement ce qu'on a toujours détesté, et il se trouve que ce qu'on déteste, ça rejoint en général ce que détestent les gens en général, c'est donc qu'il y ait une espèce de pré-mâchage de la langue et qu'on prenne les gens pour les imbéciles. Donc on va juste nous essayer de déconstruire un peu ce langage politique pré-mâché.
Alors on a l'impression que dans le fameux langage pré-mâché, plus on dit « il faut parler vrai », moins on parle vrai, plus on dit « je suis anti-système », plus on fait partie du système. C'est pas simple de s'y repérer.
Non, mais c'est justement, ça fait partie des éléments de langage. C'est-à-dire que dans un premier temps, les éléments de langage, quand personne n'y faisait trop attention, c'était le fait de faire de la langue de bois, de ne pas répondre vraiment aux questions. Et puis après, comme tout le monde a commencé à se rendre compte que les hommes politiques tenaient à peu près tous le même discours, se protégeaient, etc., ils ont eu l'idée de dire « attention, moi je suis différent des autres, moi je dis la vérité, moi je ne cache rien, moi je fais du parler vrai, moi je suis proche des gens, etc. » Mais ça reste des éléments de langage, parce qu'ensuite on s'aperçoit que dans le discours, c'est la même chose, c'est toujours de la langue de bois. Donc nous, on va essayer de casser cette deuxième coque qui protège les hommes politiques, très souvent, de ce dont ils ont peur, c'est-à-dire ce qu'ils pensent vraiment. C'est vraiment, pour nous, c'est le plus important. C'était au cœur du bouquin sur Hollande. Alors ça a fait scandale, certes, mais surtout, je pense que ça a appris beaucoup de choses aux gens, c'est-à-dire qu'on sait enfin ce que pense le président de la République. Ben, on va essayer d'appliquer ça avec d'autres personnes.
Mais vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui, il y a une classe politique qui, si elle pratique la langue de bois et le langage tout fait et le marketing adapté à la politique, c'est aussi parce qu'elle n'a plus du tout d'idées. Moi, j'ai l'impression que si on creuse derrière certains dirigeants politiques, derrière les éléments de langage, il n'y a pas non plus une pensée ou une vision du monde.
Tout à fait.
Vous avez raison, Edouard. Il y a parfois une espèce de vacuité chez certains hommes politiques, mais pour bien les connaître, on défend aussi le fait que certains d'entre eux, et même nombreux, ils sont nombreux à être extrêmement intéressants et à être en quelque sorte occultés par ces éléments de langage qu'ils se disent il faut se protéger. Voilà. Et l'intérêt de Radio Nova, et Thomas en parlera mieux que nous encore après, c'est que l'intérêt de Radio Nova, c'est que ça nous offre un espace de liberté. Je pense qu'on n'invente rien aujourd'hui en radio, à part vous, Edouard, peut-être.
Oula,
on n'invente rien en radio. Mais ce qui fait la différence, c'est la liberté qu'on peut avoir à la fois dans l'espace et puis dans nos têtes. Et donc, c'est ce qu'on a à Radio Nova.
Il y a trop de communicants politiques, il y a trop de conseillers, il y a trop de quoi.
Il y a beaucoup de choses, effectivement, mais il y a un rythme qui s'impose aussi, qui est celui de l'actualité, qui s'impose un peu partout. Et c'est vrai qu'à Nova, on a cette possibilité de se placer un peu en décalage par rapport à ce rythme-là. Et ce qui va se passer à partir de demain à 18h30 avec Éléments de langage, c'est justement de mettre en face de ces acteurs politiques qui sont de plus en plus dans ce rythme de l'actualité chaude et immédiate, des gens, que ce soit Caroline Dussin, Gérard Davé ou Fabrice Lhomme, qui travaillent en général sur un autre temps, qui est celui soit du documentaire pour Caroline, soit de l'enquête qui deviennent parfois des livres pour Gérard et Fabrice. Et ce temps-là, qui est aussi celui de la recherche et de la préparation, mettre de créer une friction, voilà, entre ces deux temps. Et justement, cette friction-là va peut-être permettre, on espère, on en est presque sûr, que ça va créer justement une autre forme de parole qui soit en dehors de ces fameuses séquences de communication, ces éléments de langage.
Comment ça va se passer? Il va y avoir good cop, bad cop. Caroline, vous allez être là sympa. Ces messieurs vont se mettre derrière l'homme politique derrière et lui attacher les mains. Comme vous avez réfléchi un petit peu à une mise en scène.
Les trois, pas forcément sympa.
Caroline, elle n'est pas sympa du tout, comme ça on dirait un ange.
C'est moins sympa.
C'est une lame.
Ce sont les intervieweurs, parce que c'est eux qui ont eu l'idée de l'émission et puis ils ont des personnalités très atypiques, etc. Et moi, je m'occupais essentiellement d'animer, de présenter l'émission et aussi de la modérer, de faire le lien avec les auditeurs. Parce qu'effectivement, dès qu'on sort des éléments de langage, ils ne sont pas là par hasard non plus. C'est aussi une espèce de vulgarisation. On peut rentrer du coup dans une grande technicité, quelque chose de très pointu, et il faut quand même rester abordable.
Alors, je voudrais comprendre, par exemple, comment. Imaginez que je vais faire le cobaye, par exemple. Moi, j'arrive, j'ai des éléments de langage. Je sors un film ouvert la nuit, un très bon film, très grand film, déjà un succès. Allez-y, commencez à effriter mon système.
On demanderait déjà, est-ce qu'elle. quelle mise en place, entre guillemets, vous avez obtenue? Combien il y a de salles qui...
J'ai 185 salles.
D'accord. Est-ce que ça, c'est pour...
Et combien de rentrées le premier jour, hein?
Rentrer le premier jour, j'attends, on va me le dire ce matin, vous pensez qu'il...
Et vous flippez? Grave.
Hein, grave, je flippe ma race. Mais
et qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas? Vous arrêtez le cinéma, Edouard?
Si ça ne marche pas...
Vous arrêtez Radio Nova?
Nova et le théâtre, mais le cinéma, comme c'est deux ans pour faire un film, il faut y réfléchir à deux fois, oui.
Donc ce matin, on apprend donc Edouard Baird arrête le cinéma si jamais son film ne dépasse pas les 500 000 spectateurs. Voilà un scoop déjà.
Monsieur, je viens de m'effondrer déjà. Vous venez de me mettre face à un miroir. Bon, bah alors c'est demain. Quel est votre premier invité?
Julien Drey.
Julien Drey, très bien.
Un sacré personnage.
Qui aurait dû être ministre de l'Intérieur de Lens, ça a été son rêve.
Et même de Sarkozy qui a essayé de le débaucher pour être ministre de l'Intérieur.
Il le sera de Fillon.
Voilà,
deuxième scoop de la journée.
Merci. À demain, messieurs, dames.
Si vous le voulez bien. Merci, Edouard.
À 6h30. Salut.
7h-9h, Edouard Baird.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Ils ont la niaque, ces jeunes.
Oui, tout à fait.
Et déconne, pas pareil, tu vas pas te tailler les veines. 1 minute 48 de retard, qu'il y a quand même les infos qui viennent. Oui,
on est c'est pas mal.
Ça me donne envie d'embrasser un flic, moi, tiens, putain.
Radio Nova.
Hommage à Renault. C'est vraiment l'arado de Renault, hein, Radio Nova.
Selon le site américain Politico, Donald Trump aurait payé et placé des acteurs dans la salle de sa toute première conférence de presse hier. Ok, on attend deux secondes. Ok, pas de souci. Allez, stop. On arrête tout. 7h32.
Bon, à tout à l'heure. Préparez bien pour demain.
Salut.
C'est bon. Proximité, j'adore.
Pardon Thierry, à tous ceux qui commencent à écouter les infos un crayon à la main.
Selon donc le site américain Politico, Donald Trump aurait payé et placé des acteurs dans la salle de sa toute première conférence de presse hier. Leur mission était, bon, on l'aura compris, hein, de l'applaudir et de l'acclamer. Ce fut une conférence de presse, on va dire folklorique. Hein. Le milliardaire républicain a pris un journaliste de CNN en grippe. Ce dernier a interrogé le président américain sur les soupçons de chantage à la sextape et les piratages russes. Sur cette affaire de sextape qui mettrait en scène donc Donald Trump et des prostituées, le nouveau président américain a déclaré que c'était du bidon et qu'il s'agissait de fausses informations. Concernant le piratage du Parti démocrate lors de la présidentielle, Donald Trump a reconnu, et c'est la première fois, que la Russie était bien à l'origine de ce dernier, avant d'ajouter que tout le monde faisait des cyberattaques. Concernant le dossier de l'emploi, le nouveau président américain a déclaré très modestement qu'il sera le plus grand créateur de postes que Dieu ait jamais créé. Et puis autre dossier chaud...
Qu'est-ce qu'ils ont à foutre Dieu partout, les Américains politiques? Ça suffit, s'en fout Dieu de savoir...
C'est écrit sur les billets quand même.
Oui, mais enfin, c'est pas parce que In God We Trust que lui va se remêler du fait qu'on croit en lui. C'est notre affaire de croire en lui. Lui, il s'en fout.
Voilà. Et puis Donald Trump donc s'en remet à Dieu aussi pour ce... Enfin, il maintient son projet qu'il entend facturer au Mexique, projet d'un mur entre la frontière mexicaine et américaine. Bon, le président mexicain, lui, il n'entend pas tout à fait de la même oreille. Enrique Peña Nieto, il assure qu'il ne paiera pas pour ce mur. Il ajoute quand même dans le même temps, il soigne ses arrières quand même, qu'il œuvrera à de bonnes relations avec le président élu des États-Unis.
Mais il dit un mur, mais un mur en quoi? Un mur comment? Un mur décoré quoi? On peut pas dire juste un mur. Il y a un projet déco quand même. Vous pouvez pas dire juste un mur, on peut dire un mur en bois, un mur en béton, un mur avec un petit peu, peut-être un petit contreplaqué.
Un petit mur en placo-plâtre.
Bah, peut-être qu'il y a des couleurs, peut-être qu'il y a des tapisseries, peut-être qu'il y a des... C'est pas forcément un mur pour séparer, ça peut être un mur pour décorer.
Bah, ce n'est pas un... En tout cas, c'est pas un mur qui stoppera l'épidémie de grippe, hein, qui est particulièrement violente et précoce.
Eh, bon enchaînement.
Est-ce que l'épidémie de grippe, d'ailleurs, elle est violente et précoce, ou bien est-ce que le système de santé n'est pas adapté? Il y a sans doute un petit peu des deux.
Hein, et est-ce que la France fout le camp?
Exactement. Quoi qu'il en soit, le pic de l'épidémie est attendu pour la semaine prochaine. Marisol Touraine, la ministre de la Santé, a prédit un bilan très lourd, probablement lourd, elle dit, pardon. Une réunion est prévue ce matin à l'Élysée avec François Hollande. En déplacement à Nice hier, François Fillon a défendu la mise en place de quotas votés par le Parlement qui déterminerait chaque année combien d'étrangers la France peut accueillir. Yannick Jadot qui sort du bois avant le premier débat de la primaire de la gauche ce soir à la télévision. Hein. Le candidat d'Europe Écologie Les Verts affirme vouloir présenter un programme écologiquement pur pour la présidentielle. Yannick Jadot promet une sortie progressive et définitive du nucléaire d'ici à 2035 et l'arrêt dès cette année des premiers réacteurs Fessenheim en tête. Il s'en est aussi pris à ceux qui en France font les yeux doux à Vladimir Poutine. Les 8 anciens salariés de Goodyear Amiens Nord échappent à la prison ferme, poursuivis pour avoir séquestré enterrés pendant plus de 30 heures deux cadres de l'entreprise en janvier 2014. Sept d'entre eux ont été condamnés à de la prison avec sursis par la cour d'appel d'Amiens. C'est une première mondiale. C'est aux Pays-Bas. L'ensemble des trains circulent grâce à l'énergie éolienne. Voilà, une éolienne fonctionnant pendant une heure permettrait de faire circuler un train sur 200 km. Devenu l'un des points les plus chauds de l'actualité de l'art contemporain à Paris, la Maison Rouge va fermer ses portes l'an prochain. On parlait tout à l'heure des taxis volants. Bah voilà ce que ça donnerait. C'est bien l'image en radio, c'est toujours très pratique. Voilà, un taxi volant, c'est ça.
Non, arrêtez de m'emmerder avec les taxis volants.
Non, c'est joli, moi j'aime bien.
Il y en aura à partir du mois de juin au-dessus de la Seine à Paris.
Et avec un beau mur, vous mettez un beau mur avec ça et ils se le prennent dans la gueule.
Slovaquie, Angola, Macédoine, Tunisie, Russie, Japon, Pologne, Norvège, Espagne, Islande. Voilà, ça c'est le programme du jour du mondial de handball. Hier soir, en ouverture de la compétition, l'équipe de France a battu le Brésil 31-16. Un dernier mot, des demi-finales de la Coupe de la Ligue qui opposeront Bordeaux, c'est du foot, Bordeaux au PSG et Monaco à Nancy. Hier soir, le PSG a battu Metz 2-0 et Bordeaux s'est imposé 3-2 face à Guingamp.
Merci cher Thierry Paret. 7h36, les grands acteurs de l'actualité sont à Radio Nova. Marisol Touraine, bonjour.
Bonjour Edouard.
Bonjour Marisol. François Fillon, bonjour.
Bonjour Edouard.
Yannick Jeannot, bonjour.
Bonjour, bonjour Edouard.
C'est ici que ça se passe sur Radio Nova. On n'a pas le temps de leur donner la parole, mais ils sont là physiquement, c'est beaucoup mieux.
Oui, on est là.
Les plus mauvaises imitations d'hommes politiques sont là aussi.
Il n'y a pas assez de place.
Jacques Souvent,
on est là. Il n'y a pas assez de place. Nous, c'est sans modération non plus. Je suis avec le patron du kiosque à Croix de Chavaux, il y en a marre, il n'y a pas assez de place, il y a trop de journaux.
Oh bah
oui, je me rends compte que les kiosques sont devenus des bazars de l'hôtel. Excusez-moi, je voulais dire des vrais bazars parce qu'on ne peut plus respirer avec tout ce qu'on vend aujourd'hui. Il y a trop de choses pour ne rien faire.
Il y a trop.
C'est combien de journaux là?
Ah oui.
Oh là 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 là, là. Je suis dans un kiosque où il y a 45 000 titres.
Oui.
J'y pense, j'étais plus de la moitié.
Oh là, des magazines qui concerneraient quoi? Le monde du tricot, la vie du rail, des couples échangistes?
Oui, un peu de tout ça, il y a... Alors, du bazar au striptease aussi. Alors, au striptease.
Il y a trop de magazines de striptease en kiosque aujourd'hui, monsieur?
Un peu beaucoup plus, ouais, ouais. Qu'auparavant.
Qu'est-ce que vous avez d'autre comme magazine qui vous encombre et que vous n'arrivez pas à vendre là? Regardez votre kiosque à Croix de Chavaux, là, à Montreuil, si j'ai bien compris. Quand vous voyez votre kiosque, qu'est-ce qui vous encombre? Vous n'en avez pas vendu depuis plusieurs semaines. Il y a quoi?
Alors, il y a des Fisher Eyes,
Fisher Eyes, c'est spécialisé dans les yeux de poisson, un magazine juste sur les yeux de poisson?
C'est Fisher Eyes.
C'est très spécialisé, oui.
Oui, très, très spécialisé sur les bateaux, les voiles.
Ah oui, il y a trop de bateaux.
Les chasseurs et tout, on n'en trouve pas.
Mais les chasseurs, il y en a à Montreuil, quoi.
Je crois
ce
pas.
Magazine sur les gens qui pratiquent la chasse en bateau, il y en a trop, donc ils se tirent dessus sur des yachts en rade de Saint-Tropez. Oui, c'est trop spécialisé.
Exactement.
La presse.
Ouais. Exactement, oui.
Et dans le monde et dans le catch, ça marche, les magazines de catch?
Un peu. Bon, de temps en temps, j'en vends un ou deux sur un mois, oui.
Oui, ouais, ça ne fait pas beaucoup, puis ça vous encombre, oui.
Ouais. Est-ce que le catcheur, on le voit arriver de loin?
Ah oui, quelques-uns, oui. Ils ont des muscles bien présentés en face. Ce qui fait que je les sens venir de loin, oui.
Est-ce qu'il y a des magazines? Il y a des magazines trop spécialisés, mode pour chien, chat chasseur, des choses comme ça. Il y a des magazines trop spécialisés, à votre avis?
Oui, 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 trop spécialisés. C'est à cause de ça que les stocks restent en place tout le temps. Voilà.
Et Christophe Méné Magazine, vous l'avez, ça, ou pas?
Non. Par contre, ça, j'en ai pas. Ouais.
C'est un magazine naturiste sur le plaisir qu'ont certains couples à vivre nus, même l'hiver.
Ah, mais dis donc.
Ah oui.
Je ne suis pas arrivé à ce niveau-là.
Vous n'en êtes pas là. Cher monsieur, vous avez raison. On n'est pas tombé si bas.
Ah, ok.
Merci, cher monsieur. Dès que vous vendez un titre un petit peu étonnant, vous nous rappelez.
Je voulais rajouter un truc.
Oui, Jacques.
Edouard, ici, le kiosque, donc, comme le monsieur est trop serré derrière tous ses journaux, il a rajouté des auvents à la façade du kiosque, ce qui est interdit, vous avez des amendes et tout ça.
Effectivement, alors, avec l'espace qui est assez réduit, je suis obligé de faire quelque chose pour pouvoir m'étendre. Mmh. Alors, c'est pour cette raison que je vous dis que le kiosque est extrêmement exigu en ce moment.
Donc vous prenez un petit peu sur le territoire public?
Exactement,
ah,
oui.
Ah, c'est grave.
C'est grave, c'est très grave.
C'est très
grave. Et j'ai des amendes à cause de ça.
Merci, Jacques. Vous êtes formidable. Bon, salut. On va voir si on peut les faire sauter.
Est-ce qu'ils vendent des trucs Altaïa? Acheter un char d'assaut en trois mois.
Oui, il y a des magazines char d'assaut, il y a des magazines spécialisés sur les coffres-forts aussi.
Comme ça.
Salut, Jacques.
Salut, à tout à l'heure.
Vous allez descendre sur Paris ? Vous montez sur Paris ?
Je descends sur Paris, par l'avenue de Paris, direction Porte de Montreuil, Paris, et les embouteillages, je sais pas. On va voir ce qui se passe.
Ok, Jacques Souvent, ok, monsieur, descende sur Paris. On est là, un petit gamin de Montreuil, un petit gamin du 9-3 devant son kiosque de la Croix de Chavaux, qui achète coffre-fort magazine en espérant avoir de quoi le remplir, non pas le magazine, mais le coffre. Puis il aura plus de rêves que de réalité, plus d'espoir que de concret. C'est mon petit Jacques Souvent, c'est mon petit gamin de Paname, mon petit gamin des Fortifs, c'est mon petit Michel Audiard, c'est ce petit argot. T'en as vendu du magazine, t'en as acheté du papier. Celui qui salit les mains, l'encre d'imprimerie, les rotatifs tournent, souviens-toi. Tout de suite.
7h, 9h, plus près de toi.
Le problème quand on passe des jolies chansons comme celle d'Alma de la Simone, là, c'est que les gens ont envie de se rendormir doucement, d'écouter ça, alors que normalement, l'émission du matin, il faudrait peut-être un petit peu... Alors, salut, ça va les petits loups, ça va, 7h46 ici, mais je sais pas, j'y arrive pas. Nous avons la chance d'être avec Chloé et Bérard, bonjour.
Bonjour.
Qui s'est penchée sur des portraits d'espionnes. Dis-nous en plus, oh Thomas Baumgartner.
Ah oui, plus que des portraits juxtaposés, c'est un récit que Chloé Bérard nous propose donc dans ce livre « Les espionnes racontent » qui sort aujourd'hui même aux éditions Robert Laffont. Et c'est
à
un
l'heure
récit,
où on parle, il est en train même. D'arriver dans les librairies. C'est émouvant ça pour vous.
Oui, et on est en train de le mettre en haut de la pile, j'ai le pressentiment.
Ah c'est chouette, vous allez aller dans les librairies avec une fausse moustache, vérifier s'il est bien dans les librairies, pardon.
Voilà, et le commander pour ensuite ne pas l'acheter, mais pour être sûr qu'il est en vente.
Je vois ce moment d'émotion.
Voilà, donc une série de rencontres racontées donc, par Chloé Bérard, des espionnes, des anciennes espionnes de la CIA, du KGB, du MI5 en Grande-Bretagne, du Mossad, de la DST aussi, mais pas de la DGSE, ça on va peut-être en parler. Mais avant toute chose, Chloé Bérard, une des raisons de ce livre, c'est que vous souhaitiez déconstruire en quelque sorte un mythe qui était un peu celui de la James Bond girl ou en tout cas de l'espionne, de la femme fatale espionne en quelque sorte, non ?
Oui, c'est ça. En fait, j'étais au départ comme tout le monde. J'avais cette image de la femme espionne qui James Bond girl ou les filles de couverture de SAS avec le flingue, la grosse poitrine, etc. Et, ou alors le côté historique, Mata Hari, Josephine Baker, toujours les mêmes figures qu'on retrouvait dans le peu de livres consacrés au thème, qui étaient souvent écrits par des historiens qui travaillaient à partir d'archives. Et je me suis dit, c'est étrange. Enfin, c'est étrange, j'ai vite compris pourquoi, mais personne ne s'était donné la peine de les rencontrer et d'essayer de savoir s'il y avait parmi elles des professionnels qui n'étaient pas forcément sublimes. Qui ne couchait pas forcément avec
tout le
monde.
Ah oui, c'est ça. L'usage n'est pas uniquement la séduction d'essayer de piéger un homme en lui envoyant une belle espionne. C'est ça.
Oui, non,
dire,
ça c'est même assez marginal. Mais voilà, donc c'était l'idée, voir la réalité, qu'est-ce qu'elle est.
Et en quelque sorte, ce que vous nous dites là, ce type de parole, on le retrouve aussi dans le livre, c'est-à-dire vos questionnements, votre avancée, vous personnelle dans cette enquête-là. Pourquoi vous mettez-vous en scène ? C'était quoi l'effet miroir, peut-être, je ne sais pas, dans ce travail journalistique.
Au début, ça ne s'est pas imposé, le fait que j'apparaisse dans le livre, parce que je pensais que mon histoire était quand même moins intéressante que la leur. Et puis finalement, pour éviter la juxtaposition de portraits et pour proposer un récit, j'ai choisi donc d'apparaître et de raconter ma quête. J'ai choisi de le faire parce que pour accéder à chacune d'entre elles, j'ai rencontré des intermédiaires, souvent masculins, qui valent, je pense... des portraits. Et puis parce qu'effectivement, il y a une certaine similitude entre les deux approches, toute proportion gardée, bien sûr, mais comme elle, je suis là pour recueillir de l'information, pour identifier les personnes susceptibles de me la donner et pour les convaincre à le faire. Et donc, il y a tout un tas de leviers qui relèvent d'une forme de manipulation douce, on va dire, qui, c'est vrai... peuvent faire penser à leur pratique.
Oui, il y a une question, les questions beaucoup d'émotions aussi, ou plutôt d'absence de... Pas d'absence d'émotion, mais de la difficulté, voire de l'impossibilité des femmes que vous rencontrez de montrer leurs émotions. C'est une sorte de défaut professionnel qui est devenu leur identité pour beaucoup d'entre elles. En particulier, quand vous rencontrez, vous racontez que ce n'était pas simple, mais vous finissez par rencontrer Stella Remington qui a dirigé les services secrets britanniques. Et c'est impossible, en fait, pour elle de montrer quoi que ce soit. C'est un des traits des différentes personnes que vous rencontrez.
C'est ce qu'elle dit d'ailleurs, que soit vous commencez dans le métier en ayant cette carapace-là, soit le métier vous la donne. Et effectivement, cette femme, j'ai mis 2 ans à la convaincre de me parler. Ça a été une des plus difficiles à approcher. Et voilà, elle a accepté de faire le job, de me parler. Et elle est naturellement ou culturellement bordée, c'est-à-dire que elle ne m'a pas dit une phrase de plus que ce qu'elle avait décidé de me dire avant que j'arrive. Et moi, qui suis souvent sur un registre d'empathie, à essayer de créer un lien justement sur l'émotion, à chercher des connivences pour la mettre à l'aise, avec elle, ça ne fonctionnait pas.
Ah bah oui, c'est un peu des professionnels du genre.
Oui, mais alors que les Américaines et l'Israélienne, par exemple, bizarrement, alors que je ne pensais pas qu'en Israël, ça se passerait aussi bien. Et elles étaient beaucoup plus partageuses.
Les hommes aussi, c'est fou, les livres sur le Mossad, sur le service secret israélien, comme les mecs racontent tout, c'est assez étonnant. C'est quoi les qualités pour être une bonne espionne? Qu'est-ce que vous conseillez à nos auditeurs?
De savoir parler énormément de langues.
Oui.
Parce que ça, on s'imagine qu'on a souvent une idée un peu, bah tiens, j'aurais voulu être cow-boy quand j'étais gamin, maintenant je vais faire espion.
Par exemple, là, cette ancienne, dans les gens que vous avez interviewés, la Joana Mendes de la CIA, combien de langues à peu près
Alors elle, pour le coup, je ne sais pas.
Ou la dame
mais l'israélienne, c'est 6.
Oui, et parfaitement, en se faisant croire qu'on est de chaque nationalité à chaque fois.
Elle faisait semblant qu'elle dirigeait un hôtel et qu'elle était européenne, alors qu'elle était israélienne et tout le monde pensait que c'était une directrice d'hôtel. Alors qu'en fait, la nuit, elle faisait transiter des juifs falachas éthiopiens depuis l'hôtel sur les rives de la mer Rouge jusqu'en Israël. Et...
Donc avoir une identité sociale précise, c'est important. Par exemple, on pourrait être écrivain, écrire un livre sur les espionnes et journalistes au monde et être espionne soi-même. Je ne fais pas allusion à vous, moi. Enfin, si.
Vous dites à la fin, Chloé Hébrard, qu'on a tenté de vous recruter.
Oui, alors pas... J'allais dire en mode light, quoi, parce que c'est pas la DGSE qui est venue et qui m'a dit vous êtes formidable, vous convainquez tout le monde de parler. Non, en fait, c'est une officine d'intelligence économique qui, en fait, m'a demandé si, à l'occasion, je serais d'accord pour interviewer un patron d'entreprise pour un vrai article dans un vrai magazine, mais qu'au cours de l'interview, si je pouvais poser une ou deux questions... qui les intéressent, eux, pour leurs affaires. Voilà. Et c'est vrai que ça m'a un peu surprise et j'ai refusé. Mais visiblement, vu le naturel avec lequel on me l'a proposé, c'est une pratique...
Alors, les espionnes racontent donc, que vous signez chez Robert Laffont. C'est une mine d'histoires, hein, il faut le dire. Toute une série d'histoires, en plus de l'histoire globale de toutes ces rencontres que vous nous racontez. Pourquoi ont-elles parlé, ces femmes? Finalement, malgré certaines difficultés, elles vous ont toutes parlé. Sauf, vous n'avez pas trouvé quelqu'un de la DGSE, ça a été compliqué, mais quelqu'un de la DST. Mais pourquoi ont-elles parlé? Vous dites qu'il y avait quelque chose de cassé et il y avait une sorte de réparation. Vous sentez ça nécessaire de leur part?
Ça, c'est mon analyse à moi. Je pense que ces femmes, toute leur vie, on leur a appris à ne pas parler, à ne pas partager ce qu'elles faisaient. Du coup, elles ont eu assez peu de reconnaissance, finalement. Aujourd'hui, je leur ai donné l'opportunité de se raconter et d'avoir le regard de quelqu'un porté sur elles. Et je pense que humainement, c'est quelque chose que chacun recherche.
Page 34, vous dites d'ailleurs, une femme sur trois en France est une espionne. Ah non, c'est dans ma thèse. Merci beaucoup, c'est chez Robert Laffont. Ça sort aujourd'hui, c'est émouvant de vous avoir. Le jour où ça arrive dans les bacs, comme ça, dans les librairies, vous êtes avec nous physiquement. Merci, chère Chloé Hébrard.
Je vous en prie.
Je cherche à bien prononcer toutes les voyelles de votre nom. Bonne chance au livre.
7h, 9h, plus près de toi.
Plus près de toi, 7h, 9h, une actualité extrêmement actuelle.
Tu voudras dire le poème avec ton vrai prénom ou tu veux prendre un pseudo?
Mon vrai prénom.
On dit son vrai prénom, on dit oui. Donc c'est quoi ton vrai prénom?
Lorca.
Donc quand ça commence, je dis salut Lorca, ça va? Hein? Puis toi tu me dis quoi?
Je récite une poésie.
Ouais, puis tu me dis salut Edouard, ça va quoi? Genre on
salut
se connaît.
Edouard,
on fait croire qu'on est en classe ensemble et ce sera plus cool. Ok, merci, c'est parti.
Mesdames, messieurs, prenez garde à la poésie.
Un enfant, un poème.
Ça va?
Salut Lorca, ça va?
Oui.
Oui.
Salut Edouard.
Oh, mon vieux, je te remercie. Donc là, c'est un poème de Daniel Pénac que tu vas dire. Tu dis qu'il a écrit plein de livres, des pièces de théâtre, Daniel Pénac. C'est à l'école que tu l'as appris? Ah, tu pratiques le « un » à la place du « oui ».
Oui.
Alors, on t'écoute.
N'ayez pas peur des autres. La peur de l'homme, c'est l'ignorance de l'autre. drôle, l'ignorance. On nous enseigne depuis toujours, l'autre est différent. Ces gens-là n'ont pas la même couleur, pas la même religion, pas la même coutume, pas les mêmes mœurs, pas les mêmes opinions, pas les mêmes goûts, pas la même sensibilité que vous. Ils sont différents, tellement différents. Pas du même pays, pas de la même région, pas de la même ville, pas de, du même quartier, pas de la même rue, pas du même immeuble, pas de la même famille. Cette volonté d'ignorance qui nous bouche les yeux et nos cœurs, qui nous fait si peureux, si solitaires, si orgueilleux, et donc si dangereux les uns pour les autres. C'est... Ouvrez vos yeux, vos oreilles, vos esprits, vos cœurs, soyez curieux de l'autre. Grandissez avec cette curiosité, car ce qui s'ouvre à l'homme de l'homme, c'est la connaissance de l'homme. Cet homme si différent et si pareil à moi, Daniel Pennac.
C'est super, Lorca, c'est très beau comme tu l'as dit. C'est toi qui as eu l'idée de, sur certains mots de les appuyer, ou tu l'as appris comme ça?
Bah, il y en a certains que j'ai appuyé moi-même, mais sinon j'ai appris comme ça.
C'est toi, ça quand tu dis, à quel moment tu as appuyé, tu dis... des différences et des choses comme ça, il y a des mots où tu dis que c'était important d'appuyer dessus parce que tu trouvais plus important. C'est une belle idée, ça fait comme si c'était chanté. T'aimes bien chanter aussi?
Un peu.
Comme quoi, par exemple?
Star Wars.
Ah, mais je connais pas, vas-y, c'est quoi la chanson Star Wars? C'est pas mal et les paroles sont moins bien quand même, là.
L'étoile, la guerre des étoiles, nanana.
Vous la connaissez, Atmen?
Non, mais j'essaie de faire le vaisseau qui passe à côté de l'étoile noire.
Il est en classe avec toi?
Oui. Je te le
non,
fais.
Bah, non, tu...
C'est ça, non? Le vaisseau? Non.
Un très bon mime radio par Atmen Kilip. Lorca, tu vas à l'école, là?
Oui.
Bon, bah, mon vieux, si tu le fais pareil, je pense que tu auras un 20 sur 10. Merci, mon vieux.
Bravo.
Mais j'ai pas de notes parce que je suis dans une école Montessori.
Ah, y a pas de notes chez Montessori? Ben viens avec tes propres notes de chez toi, parce que c'est toujours... Moi, j'aime bien recevoir des notes.
Montessori, bravo.
Atmen, c'est zéro. Ici, c'est pas Montessori.
T'as pas vu Montessori? Non, j'ai vu monter personne.
Non, c'est pas possible.
Bravo.
Non, j'ai pas vu
bravo.
Ça. Le journal de Thierry Parrain. Salut, Lorca.
Une émission pour tenter d'y voir plus clair. Les candidats de la primaire du PS se retrouvent ce soir pour le premier des trois débats télévisés censés les départager avant le premier tour, dimanche 22 janvier. Les téléspectateurs qui ont suivi les débats de la primaire de la droite ne seront pas dépaysés, hein, puisque le dispositif des émissions est semblable. Est-ce l'épidémie de grippe qui est particulièrement violente et précoce, ou le système de santé qui n'est pas adapté? Il y a sans doute un petit peu des deux. Quoi qu'il en soit, le pic de l'épidémie est attendu pour la semaine prochaine. Marisol Touraine, ministre de la Santé, a prédit un bilan probablement lourd. Une réunion est prévue ce matin à l'Élysée avec François Hollande. Selon le site américain Politico, Donald Trump aurait payé et placé des acteurs dans la salle de sa première conférence de presse hier. Leur mission était bien sûr de l'applaudir et de l'acclamer, on l'aura deviné. Ce fut une conférence de presse qu'on va qualifier de folklorique. Le milliardaire républicain a pris un journaliste de CNN en grippe. Ce dernier a interrogé le président américain sur les soupçons de chantage à la sextape et les piratages russes. Alors sur cette affaire de sextape qui mettrait en scène Donald Trump et des prostituées, le nouveau président américain a déclaré que c'était du bidon, qu'il s'agissait de fausses informations. Concernant le piratage du Parti démocrate lors de la présidentielle, Donald Trump a reconnu pour la première fois que la Russie était bien à l'origine de ce dernier, avant d'ajouter que tout le monde faisait des cyberattaques. Là, on reste un instant aux États-Unis. La première exécution de 2017 aux États-Unis a eu lieu hier au Texas. Il s'appelait Christopher Wilkins, 48 ans. Il est la 539e personne à être exécutée au Texas depuis le rétablissement de la peine de mort en 76. Une pétition réclamant la démission de Jean-Claude Juncker, actuel président de la Commission européenne, a déjà recueilli plus de 75 000 signatures. Alors cette pétition, elle a été lancée par un professeur d'économie parisien et elle fait suite à la publication début janvier d'une enquête révélant que Jean-Claude Juncker aurait entravé la lutte de l'Union européenne contre l'évasion fiscale lorsqu'il était Premier ministre du Luxembourg. Une première mondiale aux Pays-Bas, l'ensemble des trains circulent grâce à l'énergie éolienne. Les 8 anciens salariés de Goodyear Amiens-Nord échappent à la prison ferme, poursuivis pour avoir séquestré pendant plus de 30 heures deux cadres de l'entreprise en janvier 2014. 7 d'entre eux ont été condamnés à de la prison avec sursis par la cour d'appel d'Amiens. Devenu l'un des points les plus chauds de l'actualité de l'art contemporain à Paris, la Maison Rouge va fermer ses portes l'an prochain. Pour pérenniser la fondation, au-delà de ma disparition, il aurait fallu un capital de 200 millions d'euros. Désolé, je ne les ai pas. Je ne suis pas François Pinault et j'agis en conséquence. C'est ce qu'a déclaré le fondateur de la Maison Rouge, le collectionneur et mécène Antoine de Galbert. Est-ce que vous connaissez KIC 98 32 227? Non, bien sûr. Eh bien, derrière ce nom barbare se cache un système situé dans la constellation du Cygne, à environ 1800 années-lumière de chez nous, donc c'est un petit peu loin. Un système particulier puisqu'il est composé de deux étoiles sur le point de s'annihiler, de se percuter. Et cet événement pourrait tout simplement changer notre ciel aux alentours de 2022. À cette date, une nouvelle étoile pourrait devenir la plus brillante de notre ciel. Alors c'est pas fait, hein, c'est pas sûr à 100%, mais si ça se produit, ce serait une première parce que généralement les explosions d'étoiles sont observées après coup. On va terminer avec le mondial de handball. La France a battu le Brésil hier en ouverture de ce mondial sur le score de 31-16 et rencontreront les Japonais vendredi.
Non, vous, c'est pas possible. Non, c'est 31. Vous résumez les choses à des chiffres.
Des petits chiffres.
Pas, vous simplifiez. Oui. Je veux dire, 30. Que ça dit quoi, 31-16?
Moi, je suis pas journaliste, mais je trouve que c'est pas.
Voilà, on est là.
C'est plus ça que je dis.
Oui, parce que vous étiez bienveillant, vous êtes arrivé. Je veux écouter le journal de Thierry Paré avec bienveillance. J'ai vu votre œil, vous étiez pour, vous avez
été sympathique.
31-16, tout est résumé, je trouve ça, pardon, vulgaire.
Le Brésil.
31-16.
Quelle région dans le Brésil?
12, 34. Où ça, déjà? Quel Brésil? Quel 31? Il y a 31 et 31. C'est pas lequel, déjà?
Je reconnais, j'ai un peu vomi les infos.
Non, je dis pas ça.
C'est pas ça qu'on dit.
C'est pas ça.
C'est plus.
C'est pas nous. C'est vulgaire.
Merci pour votre éclairage, parce que je pense que ça peut me faire grandir.
C'est vulgaire et c'est gros
quand on peut apprendre.
C'est très agressif. Et il y a vraiment en vous, il y a un petit démon et vos yeux envoient des petites crottes.
Des petites crottes méchantes.
Des petites crottes méchantes.
Je fais le bruit de la crotte.
C'est vos yeux, c'est pas vous, c'est pas eux. Et votre, vous voyez, il y a des petits, 31-16, il était âpre, il était néo-nazi, pardon. Ce 31-16, moi j'ai cru voir les pires heures de ce pays. J'ai cru voir des gens défiler au pas de loin en uniforme sur les Champs-Élysées.
Et ça fait mal.
Pardon, mais c'est la faute de Thierry.
Et donc là, tu vois, quand t'as le papy, le maître Dolmite qui arrive chez Izuku et qui lui apprend à faire le smash corporel, 5% dans tout son corps, là. Et ça fait Wodo Chojo.
Mais qu'est-ce qu'il se passe?
Il saute comme ça, il lui donne un gros coup de pied, il est proché, et même il a du mal à esquiver le papy.
Je me glisse dans la conversation, excusez-moi, on parle de quoi là?
My Hero Academia.
Quoi?
My Hero Academia. C'est un manga, tout le monde connaît.
C'est l'Academia Francesa? C'est quelle Academia?
C'est un jeu.
C'est un manga.
C'est un manga. Bah oui. Izuku Midoriya. Izuku Midoriya.
Oui, bah je le connais. Pas me faire engueuler.
Et bah il peut faire des... Normalement il a pas de pouvoir, mais en fait après il a des pouvoirs, il donne des gros coups super puissants.
Mais c'est un manga que tu lis ou c'est un manga interactif? C'est un jeu manga?
Non, c'est un manga que je lis.
Et qui a fait le coup à la fin? Ça m'économisera la lecture de ce manga.
C'est Izuku, il attaque. Mais là, le dernier tome, il n'est pas sorti.
D'accord, mais Izuku, il attaque, mais il représente les forces du bien ou l'empire du mal?
Les forces du bien.
Est-ce que tu penses que dans la vie, le bien l'emporte?
Non, pas forcément.
Sauf s'il y a Izuku. À quoi il ressemble, cet Izuku?
Il a les cheveux noirs, un peu en bataille. Il est petit. Et voilà.
Est-ce que tu penses que le bien est représenté par un petit monsieur aux cheveux noirs et un grand blond?
Non, il y en a d'autres aussi.
Est-ce qu'il y a des couleurs du bien et des couleurs du mal?
Non.
Alors, je dois dire qu'ils sont trois en fait. Hein.
Ouais.
Ils ont pris leur écouteur de téléphone ou de casque.
Okay,
et en fait, il y a deux jumeaux. Et alors, ils ont chacun un
c'est
casque.
C'est vous qui le dites, oui.
Ils se sont partagés une oreillette.
Soit.
Voilà, une paire d'écouteurs.
Mais vous avez raison d'être plus précis, les mecs, ouais. Parce que Jacques, souvent, il sucre un peu les fraises à 8h07.
C'était le manga aussi, les gars.
Oui.
Ouais.
Sérieux.
Oui, moi je suis très sérieux.
Et alors il y a toujours plein de combats dans les mangas, c'est vrai ça?
Non, pas toujours.
Est-ce qu'il y a de la nudité féminine dans les mangas que vous lisez?
Non. Si, il y en a un petit peu, mais...
Je peux vous en procurer, les mecs. Les mangas un peu sous le manteau. Je me donnerai une adresse postale. Voilà. Si vous lisez les mangas dans le bus, le métro, les toilettes...
Ils attendent le bus, là, et c'est pas le bus qui arrive?
Si. Quand on parle du loup.
Combien?
Quand on parle. 318.
C'est drôle, les mecs, quand on parle du loup. Est-ce que ce bus ressemble à un loup? Est-ce que d'autres bus ressemblent à des moutons?
Oui.
Qu'est-ce qu'il a du loup, ce bus? Le fait qu'il vous emmène dans la gueule du loup à l'école?
Alors là, on va monter, parce que le bus arrive.
Mais foutez-leur la paix, espèce de vieux maniaque. Laissez ces jeunes tranquilles.
Je monte dans le bus.
Non, foutez-leur la paix. Ne vous laissez pas suivre par Jacques Souvent. Alors, vous montez dans le bus. C'est le 318. Il y a vraiment 300 bus à Paris.
En tout cas, c'est le 318. Voilà, on rentre. Attention, oui, accrochez-vous.
Il va où le 318? C'est quoi c'est sa destination?
Il va à Château de Vincennes. On va prendre un autre bus.
Et vous apprenez un deuxième bus après?
Ouais.
Mais pourquoi vous, laissez tomber l'école, c'est trop compliqué.
Ouais, non, ce serait une bonne idée.
Il faut deux bus pour aller à l'école?
Ouais.
Il en faut du manga. Tu en consommes un manga par bus?
Ah non, plus.
Ben oui, parce qu'il n'y a pas de texte dans les mangas quasiment.
Ah si, quand même.
Ben il y a... Aïe, attention, aïe, merde, ouf. Non?
Oui, il y a beaucoup de ça. Oui.
Mais il y a quoi d'autre, à part des onomatopées? Il y a des phrases?
Ah oui, beaucoup de phrases.
Comme quoi, par exemple?
Bah, bonjour.
Ah, bonjour.
C'est de la BD, déjà.
Ah oui.
Et vous les lisez aussi à l'école, à la cour de récré, ou des trucs comme ça?
Ouais, un peu.
Mais vous êtes en quelle classe?
En cinquième.
Cinquième, ouais, comme Atman à peu près. Oui. Bon, on vous laisse les mecs, bonne chance, okay. Avec, vous direz, si Jacques Souvent peut être une créature de manga, réfléchissez-y.
Alors moi, en tout cas, je sais pas où je vais, j'ai pris un bus, mais je sais pas le point d'arrivée.
Mais c'est très beau, nous avons pris des trains qui partaient, vous savez, dans la vie. Vous savez, la destination, c'est très accessoire.
Ouais.
Merci.
Là, on file.
Voilà, essayez de leur faire les poches, de leur prendre du pognon. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes très riches en ce moment. Salut les mecs, cassez-lui la gueule à Jacques Souvent, ça vous fera les points.
Il a dit on vous entend.
Cassez-lui la gueule à ce klepto.
Ok.
Salut, bonne école, hein.
Oui, salut.
Sinon vous serez comme Christophe Méné si vous n'allez pas à l'école.
Attention.
Le mec est fou. Salut,
il vous avait prévenu.
Salut. Si toi aussi tu as peur de devenir comme Christophe Méné, quelqu'un qui est obligé de cirer les pompes des patrons pour réussir, qui est obligé de prêter sa femme comme dans La Garçonnière, qui est obligé...
Elle est toujours d'accord en plus, c'est bizarre.
Non mais ça va pas. Mais on est en train de tomber dans quoi? Qu'est-ce qui nous arrive? C'est pas nous, c'est Christophe. Comment?
T'es beau mec.
Avancement pour Christophe Méné, il passe patron. À tout de suite.
C'est vrai. 7h, 9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute Plus Près de Toi.
Plus Près de Toi? Ah.
On comprend pas tout, mais c'est bien.
Allez-y, Atman et Tito, oui.
Come on, baby, don't you wanna go?
Oui.
Come on, baby, don't you wanna go?
Oui.
Like a Shimon place. Sweet home, Chicago. When the one is two, six to an eight. Come on, baby. Late, I'm ahead. Tout ça, c'est pour rendre hommage à Obama qui a dit au revoir à Chicago.
Oui.
On lui a fait une petite dédicace.
Oui, plaisir, oui.
Son pays. On a chanté comme des pizza yolo dans une mauvaise pizzeria.
Non, c'était bien, je pense que.
Oui, voilà. Et on voulait juste dire au revoir à Obama. Parce qu'on parle beaucoup de Trump, mais pas d'Obama.
Je vous remercie. Ruby, si vous étiez président des États-Unis, que vous étiez en fin de mandat, vous seriez contente qu'on chante une chanson comme ça sur vous?
Oui, ça fait plaisir.
Merci, Ruby.
De rien, c'est gratuit.
Alors, Ruby, qui est avec nous, qui s'appelle aussi Yvonne Akono, est actrice. Elle est créatrice de la série web Colocation entre filles. Et j'ai découvert Ruby en allant voir sur YouTube des vidéos qu'elle poste, qu'au début elle faisait chez elle, comme ça, en plan séquence, et c'est très 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 drôle. Je ne sais pas ce que ça donne en radio, écoutons un petit extrait.
Je viens de recevoir un message là, de mon copain qui me dit c'est fini. Attendez un peu. Je vais un peu l'appeler comme ça, il va m'expliquer ça en face, comme il n'a pas les couilles. Oui, allô, tu m'as accrochonné, tu es normal. Tu es normal, tu m'as accrochonné, tu dis que c'est fini entre nous, hein. Tu dis que c'est fini. Écoute-moi très bien. Ça va finir quand moi, je vais décider que c'est fini entre nous. Tant que moi, j'ai encore les sentiments pour toi, toi et moi, nous sortons ensemble. Moi, je m'en fous. Tu ne m'aimes plus. Ça, ce n'est pas mon problème. Moi, je t'aime toujours. Et tant que je t'aime encore, on est ensemble. D'ailleurs, même demain, je suis chez toi. Je dors chez toi. Je m'en fous. Je ne suis pas folle. Oh, mon ami, on ne me quitte pas comme ça. Et moi, je te dis ça. Demain, je dors chez toi. J'ai dit, demain, je dors chez toi. Tu me fatigues même. On s'en ensemble. Sinon, bisous. Bonne nuit, mon cœur, comme d'habitude. Je t'envoie même un petit message. Regarde-moi un chien comme ça. Allô? Je dis qu'on sort ensemble. Voilà. Bonne nuit. Et là, je vais raccrocher. Il est fou, lui. Il casse avec qui? Il est malade.
Alors, on a coupé cette vidéo, Ruby. Dans le petit film, vous êtes dans votre lit, vous êtes en train de coiffer des perruques.
Oui, exactement. Donc, c'est de la totale improvisation. Oui. Une petite vidéo comme ça pour animer ma page. Et puis,
En fait, voilà, au début, vous étiez, c'est une page que vous faites comme ça. Vous étiez chez vous, à côté de Rouen.
Oui.
Et vous postez des petites vidéos, comme beaucoup de gens font. Juste, on se filme, on essaie de faire un sketch.
Exactement. C'était pour... parce que dans un premier temps, vu que je faisais la série web Colocation entre filles, donc c'était pour animer la page quand il n'y avait pas du contenu. Et bah, la vidéo, elle a pris... les gens, ils étaient...
Il y a énormément de vues, là, il y a quoi?
Ah oui, on est parti à 4 millions de vues
quoi
aujourd'hui, oui, oui.
Redonnez-moi un petit peu. Non, mais c'est parce que c'est très, très drôle. Alors, je sais pas, vous êtes en train de coiffer des perruques, ça me fait l'idée, vous parlez à vos perruques. J'ai adoré ça.
Ouais, c'est vrai qu'à un moment, j'ai dit, bon, vas-y, toi, mets-toi à côté, voilà, parce que là, c'est un peu chaud. Mon mec vient de m'envoyer un message pour me dire, c'est fini. Donc, je pense aussi ce qui a fait... si je peux appeler ça le buzz, c'est parce qu'en fait, c'est ce côté spontané, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment cru que je me suis fait larguer et que c'était pas, enfin, que c'était pas un sketch, quoi.
C'est ça qui est bien, c'est que ça fait pas sketch, ça joue vrai, quoi.
Ouais.
Et c'est pas facile d'arriver à ça. Et en même temps, il y a une sorte de folie, de fantaisie, ce truc de la perruque, je riais tout seul. C'est un personnage, après, que vous allez garder, une femme un peu autoritaire comme ça, ou...
Ça dépend, ça dépendra.
C'est pas facile de garder la fraîcheur des premières fois, d'essayer, parce que c'était un peu, ça a été un peu magique.
Ouais, c'était en même temps, enfin, c'est vrai que c'est le personnage aujourd'hui que, j'ai incarné sur mes vidéos, cette femme forte, déjà c'est mon hashtag, petite femme forte,
ah oui,
par mes 1m60, ouais. Donc cette femme, voilà, qu'on ne quitte pas comme ça... c'est un personnage et voilà.
Et dans Colocation entre filles, là, vous écrivez les dialogues ou pas?
Au début, c'était de la totale improvisation. C'était spontané. Il y avait un test. On évitait tout simplement d'être vulgaire dans nos propos parce qu'il y a des petits qui nous suivent. Et avec le temps, j'ai voulu gagner en professionnalisme. Donc, j'ai arrangé les choses. Donc, on peut le remarquer de l'épisode 1 qui dure 47 secondes à l'épisode 1 de la deuxième saison. Donc il y a vraiment...
Il y a une grosse différence. Ouais, vous aimez bien les rôles d'autorité, de caractère. C'est agréable, oui. Hein, dans le... il y a Jean Gabin, puis il y a vous. Alors si par exemple vous aviez ce type-là, Ahmed Khelif, en face, comment est-ce qu'on lui rabrouait son caquet, si vous... On pourrait quoi? Il serait en train de vous draguer, comment on fait terre, Ahmed?
Salut,
comment...
ça va? Tu vas bien?
Oui, je vais bien.
Je te trouve pas mal, moi.
Et vous? Pardon?
Je te trouve pas mal, moi.
Merci.
Et alors?
Alors quoi?
On fait un petit bisou?
Quel bisou?
Un petit bisou.
Donc on commence par le bisou en 2017, c'est ça?
Ouais. Un petit bisou, oh, écoute.
Ah non, 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 non.
Pas ta farouche.
Ah non, non, non. Prénom, comment tu t'appelles?
Oh, trop compliqué.
Ah si, si, si.
Allez, c'est
sympa. Attends, c'est quoi ce mec là en 2014? Bisou, bisou. On peut passer par autre chose sans le bisou quand même.
C'est-à-dire, on va pas causer quand même?
Non, non, non. On peut causer, mais il faut savoir.
J'ai rien à dire, moi j'ai envie de. Non?
Hein, c'est mignon parce que vous n'arrivez pas à rabrouer Ahmed, qui est très touchant. C'est parce qu'il est là avec son petit bouquet de fleurs, avec son petit trait au milieu, avec son nœud papillon qui clignote.
Voilà, c'est ce qu'on veut, nous.
C'est ça, parce que dans l'œil, vous n'êtes pas très menaçant, Ahmed, et c'est tout à votre
honneur. Par contre, ma femme, quand je vais rentrer, tu vas voir.
Ruby, vous avez été remarqué. Il y a des gens qui vont vous faire tourner au cinéma. Il y a des castings, des trucs comme ça. Il y a des jeux.
Alors, pour
est-ce que c'est un conte de fées, comme on dit?
Non, pour l'instant, j'ai pas eu des demandes, mais je reste très très ouverte. Si il y a des castings à passer, il y a pas de souci. J'ai eu juste à faire un seul casting dans ma vie. C'était celui du film Papa ou Maman. Où j'ai été fulgurante. Bon, on ne me voit pas.
Assez-vous un moment de dos, de loin,
non.
Derrière la voiture.
Pourtant, j'ai tout fait pour qu'on me voit.
Ah, vous savez, quand on est fulgurant, il ne faut pas se faire remarquer. Parce
justement.
Il ne faut pas bouffer la scène des acteurs principaux.
Mais moi, je voulais qu'on me voit quand même. Non,
mais pensez au film, Ruby.
Non, c'était une très, très belle expérience. Je partais pour ça parce que, vu qu'aujourd'hui, je suis actrice... créatrice d'une web-série, mais je tiens à signaler que je reste amatrice. Donc,
ah, vous n'avez pas fait des cours et tout ça?
Non,
et
pas
et
du
les gens
tout.
Qui jouent dans votre série Colocation entre filles non plus?
Non, dans la deuxième saison, il y a des personnes qui ont pris des cours. Justement, aujourd'hui, j'ai envie de m'entourer des professionnels. C'est pour ça, la troisième saison, je suis en train de faire un casting où il y a des personnes...
Bon, mais gardez votre truc à vous quand même.
Oui, bien
vous
sûr.
Vous chantez aussi ou pas?
Non.
Très bien, alors on écoute.
Merci Ruby, c'est super. Donc allez voir, hein, c'est sur quoi on peut revoir vos vidéos?
Alors déjà, on peut me retrouver sur ma page Facebook, Ruby Comédienne, et voilà. Sur YouTube, la série web Colocation entre filles qui comporte 2 saisons.
C'est très drôle, moi je croyais que c'était écrit, je trouve que les dialogues sont très drôles. Quand
même. Ouais, je conseille la deuxième, elle est beaucoup plus professionnelle. Voilà.
Mais c'est pas bien trop professionnel, vous savez, c'est fatigant.
Ruby est un petit diamant brut.
Oui, bon, grand, oh. Voilà. Merci, c'est remarquable.
C'est mignon ça.
Merci beaucoup.
Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être avoir un tout petit morceau de 20 secondes avant de passer à la revue de presse?
C'est très malin, c'est très bien fait, c'est bien foutu votre émission, Armel, bravo. Très bien vu. Ruby, vous connaissez la France. Tito s'est assis à côté du feu. Marie Missé s'y réchauffe les mains. Elle se prépare à nous délivrer sa magnifique revue de presse. Celle de 8h22, rappelez-vous. Flamenco, Tito.
Qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal? La revue de presse de Marie Missé.
Bonjour, chère Marie.
Bonjour, Edouard. Bonjour tout le monde. Je me suis lancée ce matin dans une entreprise périlleuse et un peu large, une entreprise peut-être surdimensionnée pour 4 minutes. Je me suis dit, et si on essayait d'articuler passé, présent, futur, futur dans le passé, passé dans le futur, présent sans futur. Bref, si j'essayais d'embrouiller un petit peu tout le monde.
Ah, merci beaucoup.
De rien. Tout a commencé avec l'occasion d'utiliser l'expression au vitriol. On l'a pas tous les jours. C'est dans le Figaro, Juan Manuel de Prada, qui est écrivain, qui est effectivement l'auteur d'un article au vitriol sur notre époque actuelle, pour dresser par contre une sorte de piédestal à Houellebecq. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le propos s'emballe un petit peu. Alors, si Houellebecq est regardé avec suspicion, par exemple, voire une franche hostilité de la part de ceux qui vivent dans le présent, dit-il, c'est parce que justement ces gens vivent dans le présent. Ce temps-là est un temps décomposé et pourri par la vermine, une époque châtrée en phase terminale. Ouais. Tout va très bien pour Juan Manuel Prada, qui continue en expliquant que Houellebecq est le fruit d'une histoire et d'un passé, sauf que ça, ce sont mes mots, les siens, c'est Houellebecq est le fils de toute cette merde. La merde, c'est la révolution sexuelle, le multiculturalisme, le capitalisme boulimique. Houellebecq est donc un prophète de l'intérieur, toujours selon Juan Manuel, qui sait repérer parmi la pourriture dans laquelle nous nous vautrons placidement, et bla, et bla, et bla. Cette écriture pleine de nuances à lire avec plaisir dans le Figaro, donc, pour nous dire que le fils de la merde, Houellebecq, le prophète, est là pour nous annoncer notre futur. Et c'est justement la revue Esprit qui, en ces temps de catastrophe, comme ils l'écrivent, ont décidé de poser cette question dans le nouveau numéro. Où sont les prophètes? Où sont-ils? Et la question subsidiaire que pose ensuite François Hartog dans Le nuage noir de la mélancolie. Comment rouvrir les futurs? Comment imaginer la suite? Il explique qu'avant, les politiques savaient où aller. Et les historiens, qui avaient ce futur-là en tête, savaient quoi aller chercher dans les archives. Tant que la lumière venait de l'avenir qu'on nous présentait, du progrès en marche, alors le passé lui aussi était éclairé. L'historien savait quoi retenir et quoi oublier du passé. D'ailleurs, il écrivait allègrement l'histoire des vainqueurs. Cette lumière a disparu. C'est obscurci. Aujourd'hui, chez les historiens, on le tâtonne et on le palpe. Et ça a laissé la place, c'est bien, aux histoires des oubliés, des minorités et des vaincus. Et c'est là que peut-être on peut imaginer des futurs possibles en suivant l'idée de Walter Benjamin. Et oui, qui propose d'aller chercher dans le passé tous les futurs qui n'ont pas eu lieu, qui n'ont pas pu advenir. Et avec cette lorgnette, imaginer ce qui aurait pu arriver, rouvrir les possibles, donc élargir un petit peu l'horizon. Et justement, Libé en parlait hier, La Croix en parle aujourd'hui. Il y a une nouvelle histoire de France qui est sortie hier avec 146 dates qui n'évoquent rien aux anciens écoliers que nous sommes. 146 dates d'une histoire de France, mais une histoire de France imbriquée dans le monde où elle ne serait pas pour autant le centre du monde. C'est par exemple la date 1927, l'année où la France a naturalisé en masse les migrants, poussés par le patronat, les natalistes et les amoureux de la famille, c'est-à-dire tous plutôt à droite. Et pour terminer, rouvrir le futur, faire mentir le déterminisme, éviter les prophéties autoréalisatrices, ça se joue aussi à un niveau personnel. Dans Le Monde, un long article explique non seulement comment parfois préjugés et bonnes intentions barrent la route scolaire à la jeunesse des quartiers au moment de leur orientation. Certains conseillers veulent les protéger, les orientent alors très souvent à la baisse. Mais Le Monde donne aussi quelques exemples de gens à qui on a barré la route et qui ont pourtant poussé les murs, comme Sarah, française d'origine maghrébine, qu'on oriente en filière technique,
alors qu'elle dit qu'elle veut faire du droit, alors qu'elle a les mêmes notes que plein d'autres qu'on envoie en filière générale. Mais Sarah veut en faire du droit, elle lâche pas le morceau. Aujourd'hui, elle est avocate. Si son histoire de revanche est rare, il n'y a pas de doute. Son passé éclairera le futur d'autres gamins.
Et sinon, ça va, la petite santé ?
Oui, c'est fou. Ça surchauffe un petit peu.
C'est important, la petite santé. Il faut se couvrir. Merci, c'est remarquable.
7h, 9h, plus près de toi. 7h, 9h, Edouard Baird.
Plus près de toi.
Plus près de toi, une émission extrêmement racoleuse.
Le journal de 8h31, Thierry Paré.
Radio Nova.
C'est bien de l'annoncer sobrement parce qu'on va parler d'un sujet un peu grave, c'est la peine de mort, enfin complètement grave d'ailleurs, la peine de mort. Beaucoup de pays disposent de la peine de mort dans leur constitution, mais finalement peu la pratiquent. Le problème, c'est que l'on trouve de grands pays parmi ceux qui la pratiquent, tels la Chine ou les États-Unis. Christopher Wilkins, 48 ans, est devenu hier la 539e personne à être exécutée au Texas depuis le rétablissement de la peine de mort dans cet État en 76. C'est la première exécution de l'année aux États-Unis. Un professeur parisien a lancé il y a quelques jours une pétition pour réclamer la démission de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, et cette pétition, elle a déjà recueilli plus de 75 000 signatures, c'est beaucoup en si peu de temps, et cette pétition, elle fait suite à la publication au début du mois de janvier d'une enquête révélant que Jean-Claude Juncker aurait entravé la lutte de l'Union européenne contre l'évasion fiscale lorsqu'il était Premier ministre du Luxembourg. Si vous avez suivi les débats de la primaire de la droite, vous ne serez pas dépaysé avec ceux du PS, le dispositif est semblable. Premier débat télévisé ce soir, on y parlera notamment revenu universel, il y aura 3 débats en tout avant le premier tour de cette primaire socialiste qui aura lieu le 22 janvier. Est-ce l'épidémie de grippe qui est particulièrement violente et précoce ou le système de santé qui n'est pas adapté ? Il y a sans doute un peu des deux. Quoi qu'il en soit, le pic de l'épidémie est attendu pour la semaine prochaine. Marisol Touraine, la ministre de la Santé, a prédit un bilan probablement lourd. Une réunion est prévue ce matin à l'Élysée avec François Hollande. Selon le site américain Politico, Donald Trump aurait payé et placé des acteurs dans la salle de sa première conférence de presse hier. Leur mission, on l'aura deviné, applaudir et acclamer le nouveau président américain. Ce fut une conférence de presse, on va qualifier de folklorique. Le milliardaire républicain a pris un journaliste de CNN en grippe. Ce dernier a interrogé le président américain sur les soupçons de chantage à la sextape et les piratages russes. Alors sur cette affaire de sextape, qui mettrait en scène Donald Trump et des prostituées, le nouveau président américain a déclaré que c'était du bidon et qu'il s'agissait de fausses informations. En revanche, concernant le piratage du Parti démocrate lors de la présidentielle, Donald Trump a reconnu que la Russie était sans doute bien à l'origine de ce dernier, avant d'ajouter que tout le monde faisait des cyberattaques. Des centaines de touristes sont bloqués à Bali, île la plus touristique d'Indonésie, à la suite de l'annulation de vol de la compagnie Tiger Australia, accusée par les autorités indonésiennes d'avoir enfreint la réglementation locale. C'est une première mondiale aux Pays-Bas et d'ailleurs les voyageurs qui sont allés en Indonésie auraient peut-être dû choisir le train. C'est une première mondiale aux Pays-Bas où l'ensemble des trains circulent désormais à l'énergie éolienne. Et il faudrait, enfin, une éolienne fonctionnant pendant une heure permettrait de faire avancer un train sur 200 km.
Vous êtes conscient de ce que vous venez de dire ? C'est grave. Vous avez dit que quand des gens qui sont bloqués depuis des semaines à Bali, qui sont allés travailler durement dans les mines de Bali, veulent revenir, vous leur dites de prendre le train. Et quand il n'y a plus de pain, vous dites manger de la brioche. Ouais, vous êtes la Marie-Antoinette des informations.
Vous faites du vélo.
Vous crachez sur les gens parce que vous les méprisez.
C'est du mépris.
C'est sale, vous salissez.
C'est encore cette petite qui lance des crottes.
Et nos oreilles, vous les encrassez par ce goudron. C'est comme si vous crachiez des gitanes de maïs dans nos oreilles.
Ah oui, c'est vrai. Je vois l'image.
L'image est juste, l'image est vraie, c'est frais.
Vous savez que personne commente les infos comme vous le faites, je suis sidéré.
Personne ne m'a parlé comme ça. Jamais, monsieur.
Les 8 anciens salariés de Goodyear, Amiens Nord, échappent à la prison ferme, poursuivis pour avoir
séquestré. On dit bonne année en France. On ne dit pas Goodyear, déjà. Déjà, respectez la langue, ce pays qui vous accueille. Je n'ai qu'une maîtresse, la langue française, les employés de bonne année.
Ils avaient séquestré des cadres pendant une trentaine d'heures, c'était en janvier 2014. 7 d'entre eux ont été condamnés à de la prison avec sursis par la cour d'appel d'Amiens. Devenu l'un des points les plus chauds de l'actualité de l'art contemporain.
On ne dit pas d'Amiens.
La Maison Rouge va fermer ses portes l'an prochain, mais ça, évidemment,
on ne dit pas Maison Rouge.
D'accord. Ce n'est pas un film. Des taxis volants vont être testés sur la Seine à Paris dès le mois prochain, dénommés Sea Bubble, une embarcation électrique qui doit voler au-dessus de l'eau grâce à des petites ailes. Entre 5 et 10 taxis volants devraient entrer en service dès le mois de juin prochain.
Et bientôt, vous pourrez voir des petits films sur votre téléphone. On vous expliquera comment. C'est très étonnant. C'est-à-dire, au lieu de regarder la télévision ou au cinéma, vous pourrez, en appuyant sur des boutons, regarder des petites vidéos sur ce qui vous servait à dire « Allô maman, bobo, comment tu m'as fait, je suis pas beau
voilà, ». Alors,
autre chose, Thierry,
Slovaquie, Angola, et on va terminer là-dessus. Macédoine, Tunisie, voilà.
Quel
Russie, Japon.
On s'en fout du sport, on dit les pays.
Pologne, Norvège, Espagne, Islande.
Islande, voilà.
Non, alors là, c'est grave.
Alors
là,
c'est, ouais, c'est grave. C'est
Atmen, vous êtes, je vous vois.
Je vous.
Ah là, il est.
Je ne suis plus moi-même.
Non, vous bouez, vous bouillez.
Je bouille.
J'ai ma petite bouilloire qui est là. Tito, on ne peut pas faire la météo musicale. Donnez juste un chiffre en musique.
Fais du feu dans la cheminée. Non.
Vous avez une date, une ville, une météo.
S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. Alors il fait quoi? 4 à Lyon.
Ben voilà. Une ville, une météo. C'est quand même pas sorcier. Non, parce qu'on a Bouchta au téléphone. Ensuite, on est avec les jours, avec Olivier Bertrand. Mais dites-moi, Bouchta avait commencé à nous parler de sa cousine hier. Et à la demande générale, oui, c'est nous, on le demande. Calmez-vous. Bouchta veut nous raconter la suite des aventures de sa cousine. Bouchta, tu vas bien?
Bonjour, mon petit Edouard.
Bouchta, ça me rajeunit, j'aime bien parler à Bouchta. Bouchta, notre correspondant marseillais, nous parlait de sa cousine qui avait fait carrière dans la rencontre masculine sur la Côte d'Azur.
Et ça tombe bien, ça s'appelle Carrie en plus. Carrie, carrière. Écoute mon poussin. Alors la suite, Carrie. On en était à Stéphanie de Monaco sur la pipitcha à côté de Carrie.
Oui.
Alors écoute mon poussin. Alors finalement, la chinoise a appelé, elle s'est mariée avec lui, un milliardaire, le banquier fils allemand.
Oui.
Et alors, une fois qu'il a bien divorcé avec la chinoise, elle a dit, écoute, alors, mon poussin, on va se marier.
Ta cousine a épousé le milliardaire qui avait divorcé de la chinoise.
Heureusement, quoi ça
fait. Suivez chez vous, soyez gentil.
Écoute-moi, comment elle a fait. Elle est trop maligne, elle est restée 20 ans là-bas pour apprendre. Hein. Alors, le mec, il est arrivé, elle a dit, écoute, j'ai divorcé avec la chinoise. Elle a dit, écoute, tout de suite, on va à la mairie. Le mec, il était content, il croyait le faire un halal, comme on dit chez nous à Marseille, ou au bled. À Monaco. Mais elle n'est pas con. À Monaco, quand tu te maries, c'est patriarcat. Ça veut dire que l'homme, quand il vient avec toutes ses affaires, il repart avec ses affaires. La femme, elle reste une femme de ménage. Alors, elle est tellement intelligente, elle a pris son mec. Il n'était même pas au courant qu'elle avait choisi les témoins, les siens et les deux, quoi. Les deux témoins. Oui. Elle a mené à la mairie de Beausoleil, en France, à deux pas de Monaco. Elle est passée à la mairie. Il a dit oui. Elle a dit oui. Mariage sans contrat, bien sûr. Heureusement, mariage de Napoléon. Mariage civil, ça s'appelle.
Oui.
Et lui voulait le faire le mariage à l'envers, à la monégasque.
Oui.
Alors finalement, elle a fait le mariage, il était content, bon bref. Et après, elle est rentrée dans son appartement qu'il lui a acheté. Lui aussi, il avait son appartement. Ils ont fait appartement bande à part. Mariage, tu sais, halal. Chacun son coin.
Bien compris.
Déjà qu'il ne ressemble pas à Tom Cruise. Et ensuite, chacun son appart. Et de temps en temps, ils se voyaient par-ci, par-là. Et un jour, il a craqué. Au bout d'un an, il a dit, écoute, on ne fait pas notre mariage à Monaco. Elle a dit, si tu veux, maintenant, on fait le halal. Même avec Albert de Monaco. Il a déjà fait le mariage de Gad Elmaleh pour qu'elle ne va pas faire le mien. Elle a dit, fais comme tu veux, ça te regarde. Finalement, il a fait un grand mariage et compagnie. Tout s'est très bien passé. Et le jour du mariage, il lui a dit, qu'est-ce que je te fais cadeau pour l'annonce, quoi, pour le mariage. Elle lui a dit, écoute mon poussin, si tu veux un cadeau, je veux un seul. Tu m'achètes cet appartement. C'est le building le plus haut de Monaco.
Oui.
Dernier étage, elle a pris, comme ça, elle a toute la terrasse.
Oui.
Et une fois qu'elle a acheté, elle a son chambre, là, sa fille elle a sa chambre, lui il a sa chambre, chacun sa chambre, hein, elle est en colonie de vacances, colocation, mariage, colocation.
Oui.
Et lui il était content, il s'est mis en méthode vibreur, il était tellement content, il est rentré en vibration. Elle a tout de suite calmé, elle l'a mis en mode silencieux.
Mm-hmm.
Dès qu'elle a mis le pied chez elle, elle avait le nom et son prénom sur la boîte aux lettres et sur la porte. Elle lui a dit, écoute, déjà je te tolère dans mon appartement, alors je ne vais pas entendre du bruit. Et puis là, j'ai 14 ans, je souffre. C'est pas toi qui va commencer à me faire du bruit quand je dors, mais tu vas arriver, ma fille, t'as compris? Le mec, il a rien compris. Pendant 6 ans, mode silencieux. Tu sais comment il faisait? Elle m'a dit, je te jure, la dernière année,
ouais,
il volait. On dirait que je l'avais mis en mode avion. Plus de bruit.
Ouais.
Et la dernière année, il s'est mis en mode avion. Je dis, pourquoi en mode avion? Elle m'a dit, pour qui prend son envol? Tellement qu'il a craqué, il a dit, écoute, tu me fais souffrir, j'en ai marre, tu souffres, ouais, demande le divorce. Elle a dit, moi, je souffre pas, j'habite ici, je suis chez moi. C'est toi qui souffres, calme-toi. Quand tu restes ici.
Mais
là,
pour en venir au fait.
Écoute, mon poussin, à la 6e année, mode avion, il a pris son envol. Elle a dû demander le divorce. Elle a pris l'avocat. Il a pris l'avocat. Elle est partie au rocher chez le procureur. Le procureur, il rigolait, mais rigolait. Il allait mourir quand il racontait sa vie. Il a dit, elle m'a fait souffrir. Je ne pouvais pas faire du bruit. Je ne pouvais pas si, j'étais ainsi. Ça. Il rigolait. Mais heureusement, grâce à Dieu, elle connaît le procureur.
Pardon de t'interrompre. Elle a gardé l'appartement, finalement?
Heureusement, mon chou. Elle connaît le procureur, je t'ai dit. Elle a tout gagné. Parce qu'elle s'est mariée. Elle s'est mariée dans le... mariage civil sans contrat, ça veut dire chacun sa mère. Il a acheté à son nom.
Merci. Merci, Bouchta, pour cette tranche de vie qui nous donne des idées à nous aussi.
Voilà. Et finalement, elle a eu l'appartement à son nom, elle était contente, elle a divorcé. Lui, il est parti de son côté, elle du sien. Oui. Et grâce à Dieu, elle a la moitié de Monaco sur son dos. Elle a fait finalement, comme je t'ai dit, le mariage, le grand mariage monégasque, comme on dit, le halal. Oui. Après, Albert lui a mis un peu de henna, là, à l'ancienne. Et il était content. Et elle a divorcé. Bon, lui, il a retourné à Genève.
Je vais... puis, elle a des sous, pardon de t'interrompre. Et... on va continuer hors antenne, Bouchta. Je vais te prendre au téléphone. On va continuer. Pendant ce temps-là, il y a Baer qui va continuer l'émission.
D'accord, mon
poussette. C'est une belle histoire, hein.
Elle est belle. Et encore ça, c'est le troisième mari. Mais, je te raconte le deuxième, le russe.
Tu nous racontes lundi la suite. La cousine de Bouchta, l'un des meilleurs feuilletons radio de l'histoire de la radio. Lundi, vous apprendrez comment la cousine de Bouchta, avec son appartement monégasque, a continué sa carrière. Mais tout de suite, il faut dérouler le fil, la vie continue. On cherche tous un milliardaire monégasque et si on n'en trouve pas, on se retrouve dans 2 minutes ici. Hein.
7h, 9h, plus près de toi. De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi? Ah.
Il y a vraiment des interventions pertinentes.
On passe du coq à l'âne, on se balade dans tous les aspects de la vie. Ce matin, Thomas Baumgartner, nous sommes avec Olivier Bertrand des jours.
Et oui, parce que nous sommes jeudi et autour de 8h40 le jeudi, les jours viennent nous rendre visite. Et donc, ce matin, c'est vous, Olivier Bertrand, bonjour.
Bonjour.
Vous venez nous parler en particulier d'une série, une obsession, comme on dit sur lesjours.fr, autour de la Turquie. On vous avait eu au téléphone il y a quelques semaines. Vous reveniez juste de Turquie où vous avez eu quelques problèmes. On a été sans nouvelles de vous pendant 3 jours. Vous aviez fait le récit, et vous l'avez fait sur lesjours.fr, de la détention dont vous avez fait l'objet. Et vous nous aviez dit, je continuerai à parler de Turquie, de la Turquie. Et c'est ce que vous faites, donc à travers cette obsession, la bascule, parce que la Turquie est en train de basculer. Et vous faites la chronique de ce basculement, et notamment à travers la question de la torture. Parce qu'aujourd'hui, si on est du PKK ou soupçonné de l'être, si on est membre de la confrérie Gulen, vous allez nous dire ce que c'est, on risque aussi d'être arrêté, on risque d'être torturé. Et vous avez rencontré des gens qui l'ont été. Et la question aujourd'hui, en fait, c'est celle d'un retour à la torture. Parce que vous le dites dans cet article sur lesjours.fr, la torture avait reflué, elle a existé dans les années 80, 90, elle avait reflué et elle revient.
Elle n'a jamais complètement disparu, la torture en fait en Turquie, mais c'est vrai qu'elle avait baissé très très significativement à partir des années 2000, notamment quand la Turquie a pensé qu'elle allait pouvoir adhérer à l'Union européenne. Et pour ça, il y avait des standards à respecter, la peine de mort a été abolie, et puis la torture, il y a eu toute une série de mesures qui ont été mises en place pour lutter contre la torture, des caméras dans les commissariats, des examens très réguliers. Des goûts sortis de garde à vue dans des hôpitaux, enfin un tas de choses comme ça, qui ont volé en éclats à partir de cet été, et du coup d'État manqué du 15 juillet, des décrets-lois qui ont été pris et qui ont supprimé absolument tous les garde-fous qui permettaient d'empêcher la torture dans les commissariats.
Alors vous le dites dans cet article, il y a une forme de mascarade qui se met en place, puisque justement ces contrôles, par exemple les contrôles médicaux à l'entrée, à la sortie des commissariats, ça existe toujours, mais c'est complètement vidé de son sens.
Moi je l'avais vu en novembre, puisque avant d'être expulsé, donc je suis resté 3 jours là-bas en rétention, et à chaque fois que j'étais entendu dans un commissariat, ensuite on m'amenait dans un hôpital, et c'était, enfin à chaque fois je rigolais en fait, parce que par exemple vous rentriez, et puis il y avait un médecin qui vous voyait approcher, puis le policier le prenait par le bras, l'amenait à l'écart, lui parlait un petit peu, il revenait, et là le médecin il levait plus la tête vers moi en fait, j'existais juste plus, il me demandait « all is ok ?» Et puis, je pouvais répondre quoi que ce soit. De toute façon, il avait déjà tamponné le papier. Et, voilà. Et dans tous les hôpitaux, c'est absolument ça. Pour moi, c'est sans grande conséquence, puisque je n'ai pas été maltraité là-bas. Je suis un journaliste occidental. Je pense que les policiers se sont retenus, même si je sentais en temps qu'il y avait des envies. En revanche, malheureusement, depuis juillet, ils ne sortiennent absolument pas pour des milliers au moins de personnes qui sont détenues là-bas, qui sont frappées, qui sont menacées de viol très, très fréquemment. Et malheureusement, pour certains d'entre eux, qui ont été violés.
Ce sont des milliers de personnes qui sont concernées, ça vous le dites, depuis la tentative de putsch de l'été dernier. Il y a eu une véritable purge, par exemple, dans la magistrature, et des milliers de personnes concernées ou qui potentiellement peuvent être concernées par ces exactions du pouvoir.
Exactement, oui. Un quart des magistratures qui ont été écartées depuis le mois de juillet. Un quart, c'est énorme. Et absolument personne n'est épargné par, par les mauvais traitements. Les magistrats eux-mêmes ont peur d'être torturés, certains l'ont été. Des policiers, beaucoup l'ont été parce qu'ils étaient beaucoup gulenistes. Donc pour faire très très vite, la confrérie Gulen, c'est une confrérie religieuse avec laquelle le pouvoir et le président Erdogan a travaillé pendant très longtemps, pendant 15 ans, et avec laquelle il s'est fâché à partir de 2013, avec laquelle il est en guerre et qu'aujourd'hui il accuse d'avoir fomenté le coup d'État du 15 juillet dernier. Et pour cette raison-là, en fait, des dizaines de milliers de gulenis sont arrêtés et torturés. Beaucoup de policiers et de militaires parmi eux.
Donc ce n'est pas des dérapages, hein, c'est la torture système.
C'est ça la vraie différence. C'est-à-dire, quand je disais que la torture n'a jamais été supprimée, le comité européen de prévention de la torture, en 2008, disait que c'était très difficile de mettre des obstacles à la violence des policiers dans les commissariats. Les dérapages existaient toujours. La grande différence, c'est que depuis cet été, il y a quelque chose de systématique qui s'est mis en place et une véritable impunité offerte par le régime, par le gouvernement. Un décret, par exemple, qui donne impunité, qui enlève toute responsabilité pour des actes qui sont pris dans le cadre des décrets qui ont été pris depuis cet été.
Mais la torture, c'est pour obtenir des informations? C'est un moyen ultime pour faire parler quelqu'un? Ou il y a même une torture pour faire peur, pour inquiéter?
Moi, je crois qu'il y a deux choses. Il y a d'abord une torture qui est pour faire avouer, donner les noms des autres membres de la confrérie autour des personnes qui sont interrogées, ou faire avouer des crimes supposés. Et puis, il y a par ailleurs, effectivement, la volonté de casser complètement des militants, de casser tout opposant dans ce pays, de mettre en place un véritable régime de terreur. Et ça fonctionne réellement. C'est-à-dire que quand les magistrats, les policiers, les militants avec qui je suis en contact en Turquie et qui je reste en contact de façon extrêmement prudente en Turquie, sont aujourd'hui terrorisés. Dans le papier, je parle d'un magistrat, par exemple, avec qui je suis en contact depuis un moment, qui a été écarté, qui est quelqu'un de vraiment bien et qui devait me donner une interview cet automne de façon anonyme et qui a renoncé au dernier moment en me disant « J'ai pas peur d'être arrêté, monsieur, j'ai peur d'être torturé. On est dans un pays de fous. »
Épisode 3 de l'Obsession, la bascule, cette chronique de la Turquie en pleine transformation signée par vous, Olivier Bertrand. C'est à lire sur la home du site, sur lesjours.fr. Merci
beaucoup. Merci Olivier. Ça va, depuis que vous êtes rentré, vous faites des cauchemars, des choses comme ça d'après...
Écoutez un petit peu ce qui se passe pour la cousine à Monaco m'a fait beaucoup de bien. Je vous avoue que tout à coup, le moral est en train de revenir. Là.
Alors, merci beaucoup.
Olivier Bertrand. Bonne journée à vous.
Théo Lawrence and the Hearts sont en train de se préparer. C'est pas eux qui chantent, vous avez bien compris. Ils sont en train de se préparer pour le grand live d'ici quelques minutes dans le Grand Café Nova. J'aime bien le mot grand, ça me rassure, le côté grand. Parce que sinon, on dit toujours, tu veux un petit café, ça va la petite santé. Là, c'est le grand live, le grand groupe, hein. Une grande émission, un grand film ouvert la nuit sur tous les... Ah, non, bah, je peux parler.
Oui, mais Arles.
Oui, on va à Arles tout à l'heure le présenter. Oui, si vous êtes à Arles, venez nous voir. Assez parlé de moi, parlons de vous. Qu'est-ce que vous pensez de moi, Jack Souvent?
Pas grand chose. C'était quoi le film super qui est sorti là?
Bon, c'est ouvert la nuit. C'est pas parce que je l'ai réalisé, c'est objectivement. Je l'ai revu hier comme si c'était le film de quelqu'un d'autre. Je me suis dit, mais c'est remarquable, il se trouve, c'est le mien. Mais ça n'a rien à voir. Arrêtez de faire de la pub pour mon film, c'est vulgaire. Théo, c'est parce qu'il y a un Théo qui est là.
Je me suis retrouvé avec les jeunes et le manga, je me suis retrouvé au zoo de Vincennes.
Vous les avez suivis? Alors en fait, ils ont cours au zoo de Vincennes, c'est des élèves singes ou des élèves animaux?
En tout cas, en face, et là, je n'arrive pas à rejoindre Paris. Je me suis retrouvé avenue de Paris à Montreuil, là, je suis avenue de Paris à Vincennes. Mmh. J'arrive pas à rejoindre Paris.
Il faudrait trouver l'avenue de Montreuil à Paris ou l'avenue de Vincennes. Oui, c'est ça.
Ouais, je suis au feu rouge, alors j'essaie de rentrer dans une voiture. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous pouvez m'emmener à Paris?
Où ça, à Paris?
Dans le 12e, 11e.
Ah, je suis désolée, je travaille ici à Saint-Mandé.
Emmenez-moi alors... avec vous, c'est pas ça.
Et qui vous êtes, hein?
Sévère. C'est l'inconnu,
voilà,
qui passe.
Privé, l'espace privé, dans l'espace public, c'est toujours un petit peu compliqué.
Oula.
Mais il y a une voiture qui s'est arrêtée, là. Non, c'est passé au vert maintenant, donc voilà.
Mais je pense que cette dame était prête à vous emmener si vous avez dit qui vous êtes. Il fallait trouver la bonne réponse.
Oui, j'ai dit 11e, j'aurais pu dire 2e.
Non, mais vous auriez dû répondre à la question « qui êtes-vous ?», qui est une question essentielle dans la vie.
Oui, c'est ça. Et ben justement, pour y répondre, je vais trouver la carte de ma vie parce que je suis en face d'un grand bâtiment qui est Météo France IGN. Je crois que c'est là qu'ils font toutes les cartes Institut Géographique National. Je crois que c'est là qu'ils font toutes les cartes.
Sonnez, frappez, rentrez, parlez à des gens.
Ça repasse au rouge, alors je vais essayer de monter en bagnole. Il y a un 4x4, mais elle n'a pas l'air aimable.
Elle, le 4x4?
Non, elle dit non. Elle dit non.
Elle dit non avec la tête, mais elle dit peut-être oui avec le cœur.
Lui, il n'a pas de place. Ah, alors la voiture CL91, je vois, il n'a pas l'air commode non plus.
Oui.
Non, il dit non d'un geste de la main. Et j'avance maintenant, c'est une petite Ford.
Allez-y, peut-être la petite
non,
Ford.
Non, il dit non, non de la main.
Non, non, non.
Alors, en fait, quand ils disent non de la main comme ça, ils se voient, donc tout le monde dit non. Ah non.
Ah oui, c'est, ils communiquent. Bonjour. Peut-être faites semblant de laver les
bonjour,
carreaux.
Bonjour. Oui, bonjour. Vous allez dans quel coin?
La Bastille.
Vous m'emmenez? Allez, ouvrez-moi. Je vais pas laisser les choix.
Ah, c'est magnifique. Ah, c'est chouette. Merci, monsieur. Je vais retrouver le live, là, Théo Lorenz. Mais...
Ça y est. Je monte.
Vous êtes...
Ah, merci, monsieur.
De rien.
Sympa.
Jacques Souvent
monte. Il n'y a pas de quoi.
Jacques Souvent monte en direct dans une voiture à Vincennes. Ouais, il va vers Bastille. Merci, monsieur.
Vous écoutez RTL?
Oui.
Pourquoi?
Pour Laurent Gérard le matin.
Mais oui, moi, j'aime bien aussi Laurent Gérard. Voilà. C'est Mitterrand.
Nous, on est avec Édouard Baird sur Nova.
Bah oui, c'est moi. Ça fait moi rêver. Les imitations sont moins bien.
De temps en temps, oui.
Et non,
parce quoi
après, dans la journée.
Monsieur, je peux vous en faire des imitations si vous voulez, moi aussi. Qu'est-ce que vous voulez? Écoutez, monsieur le cabache. C'est qui ça?
C'était Georges Marché, non?
Ouais, c'est Marché.
Ouais, non, c'est tout ça. Je n'imite que les gens morts, moi, c'est ça.
Mitterrand.
21 degrés dans la voiture. C'est-à-dire, on va essayer de ne pas avoir un accident. Mettez le casque, voilà, vous allez nous entendre en direct, là. Voilà, ça va? Vous entendez mieux, là?
Ça va.
Bonjour, monsieur, c'est sympa de prendre en direct un type à l'air louche dans le bois de Vincennes alors que le jour se lève à peine.
Oh, il n'y a que des mecs louches dans le coin. Mais plus, un de moins.
Est-ce que vous pensez qu'à certaines heures, tout le monde est louche?
Certaines heures, oui. Surtout entre 7h et 18h.
Oui, ça fait, c'est large. Vous-même, vous êtes louche, monsieur, ou pas?
Totalement. Je vais travailler. Pas normal, en temps normal.
Vous bossez dans quoi?
Je suis indépendant dans la plomberie couverture.
Et ça se passe bien en ce moment? Vous faites du chiffre?
Oui, pour Madame Hidalgo, je fais du chiffre.
Ah, c'est gentil de tout lui envoyer, ça lui fera plaisir. Vous faites un petit peu de black, un petit peu du...
Oh, le black, on peut plus, on est concurrencé.
Bon, bah Jack Souvent va vous expliquer pourquoi. Et là, je suis obligé de vous écouter parce que l'émission va se terminer et j'ai un énorme groupe qui se prépare. Salut, merci d'avoir pris notre copain en voiture. Bonne journée, cher monsieur.
Oui, et puis il va à Bastille, c'est génial.
Alors, arrivez tout de suite pour écouter Théo, ça marche le micro là, Armel?
Bien sûr.
Je vais en direct. Passez-moi un blouson, il fait très froid là-bas. Vous n'avez pas un gros machin là?
Édouard, on va mettre un peu de pub quand même.
Alors, il y a de la pub, donc je peux. Bon. Allez, on se retrouve. Oui.
D'accord.
7h-9h, plus près de toi.
Eva, plus près de toi.
7h-9h, Édouard Baird.
Je passe une matinée. Mon Dieu,
elle m'a fait peur, la dame qui a crié Neva. Yacine et Thomas, on ne va pas se mentir là. On a 4 minutes dans la vue là. Comment vous prenez l'affaire?
Là, on rentre. Merci. Parce que
30 glorieuses, c'est peut-être vous 15.
On est sur un changement de nom là. Je pense que c'est plus les 10 glorieuses. Voilà. Je voulais présenter mes excuses à Tropic FM parce qu'on a fait beaucoup de vannes sur les Antillais, le fait d'arriver en retard et dorénavant notre émission. Voilà,
ça s'appellera maintenant les 7 mercenaires. Voilà,
allez voir la direction, monsieur Zécri. Alors, non, mais parce qu'ils sont là. Théo Lorenz and the Hearts, je suis très très bon en prononciation anglo-saxonne, mais si jamais on avait aussi bien prononcé le nom de votre groupe, je crois. Présentez-les-nous, Rudy, s'il vous plaît.
Bonjour Edouard, je suis sûr que tu te rappelleras qu'il y a quelques semaines, nous avions reçu ici même deux maîtres de la soul music actuelle en la personne de Nick Waterhouse et Lee Fields. Rappelle-toi de son survêtement improbable. Eh bien, figure-toi que pour trouver des artistes authentique, ambassadeur de cette musique spirituelle et habitée qu'est la soul. En fait, il suffisait juste de faire comme Jacques Souvent et de franchir le périph' parisien, prendre la D50, puis la D127 et faire un stop à Gentilly. Et c'est donc dans une cave de cette banlieue sud que le jeune Théo Lorenz, accompagné de son groupe The Hearts, sut jusqu'à s'en faire couler la gomina qu'ils n'ont pas pour rendre ses lettres de noblesse à la bande-son du Mississippi version 60s. Aucun effet de mode, pas de pause ni de faux-semblants. Et ça se ressent, le groupe a un an à peine d'existence et je suis déjà bluffé par leur première EP 4 titres qu'ils viennent de sortir, Sticky Hickey, enregistré en 2 jours, dont nous allons avoir la chance d'entendre quelques
Retard pour retard, je vais les voir.
Oui,
deux
allons-y,
secondes.
Hein, je suis en tant qu'affaire.
C'est quoi cette histoire de cave à Gentilly?
Bah c'est de la musique folk du RERB.
Alors, il y a ton goût parce que c'est très rare d'avoir un batteur qui joue de la chaise. Quel est ce nouvel instrument?
Le batteur est Thibaut. C'est un drum kit spécial pour l'occasion.
Donc tu es un génie de l'adaptation.
Et il faut. Hein.
S'il y avait eu une paire de chaussures, tu en aurais fait quelque chose?
Évidemment.
Okay, je vais te laisser mes pompes. Comment t'appelles-tu?
Neville.
Est-ce que ce groupe est maintenant constitué pour toujours ou suivant les prestations de tes musiciens, tu peux les remplacer dans cette violence qu'est le monde de la musique ?
Personne n'est jamais remplacé, on est toujours 5 normalement. Il manque Olivier Visca à la basse et Louis Marin, Renaud à la guitare.
Est-ce dû à des problèmes d'horaire ? Font-ils partie de ce monde des musiciens qui refusent de se lever avant midi ?
Exactement. Ils ont trop joué aux jeux vidéo hier soir et n'ont pas pu se lever.
Bon, merci d'être là, les mecs. Aïe ! Pardon, je me suis pris le pied dans le fil. Est-ce qu'il y a un peu de monde aujourd'hui ? Ouais ! En effet.
Théo Lorenz and the Hearts. Je crois qu'il débute avec Sticky Icky.
Merci, bravo. Voilà, pardon, Trente Glorieuses. Un jour, Yacine et Thomas, je ferai le ménage chez vous. Merci à tous. À demain lundi à la vie.
Édouard Baird.
7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.